Alors, on va démarrer la présentation du bilan. D'abord, je voudrais vous remercier tous d'être venus parce que on n'est pas beaucoup. Voilà, donc on vous remercie d'autant plus d'être venus. On sait que c'est toujours compliqué de sacrifier un samedi après-midi à des activités associatives, surtout les bilans, etc. C'est pas forcément le plus intéressant. Donc merci d'être venu. Je remercie notamment François Elie là qui est au milieu, président de la du Lac, qui nous fait le plaisir d'être venu cet après-midi. Et puis j'en profite pour remercier Alban et Florent qui sont en train de se démener pour s'assurer que l'enregistrement déjà de l'AG fonctionne. Et puis j'espère le streaming audio. Alors déjà je vais me présenter. J'ai un petit badge, mais on le voit pas très bien. Donc, je m'appelle Lionel Allorge, je suis le président de l'association, et je vais essayer de vous présenter un petit peu toutes les activités de l'association qui ont eu lieu au cours de l'année 2012, et puis on fera un petit bilan des perspectives pour 2013. Alors, donc vous allez voir le rapport moral. Donc, le rapport moral, c'est les activités de l'association, qu'est-ce qu'on a fait. On va voir le bilan financier, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait avec vos sous. Et on fera l'élection du conseil d'administration. On parlera donc des perspectives 2013. C'est là où il ne faudra pas hésiter à intervenir, à poser des questions, à proposer éventuellement des choses. Et on vous proposera un bilan prévisionnel, c'est-à-dire essayer d'estimer un petit peu qu'est-ce qu'on va pouvoir faire l'année prochaine au niveau financier. Vous verrez qu'il y a des décisions à prendre. Et ensuite, soirée. Alors, le rapport moral, il y a plusieurs parties. La première partie, c'est la vie de l'association, c'est la manière dont l'association fonctionne. Alors, on a 5000 adhérents en 2012, à la fin 2012, ce qui est une baisse par rapport à l'année précédente. On a perdu près de 400 adhérents. Donc c'est quelque chose qu'on constate depuis quelques années. On a une érosion du nombre d'adhérents. Et donc on vous parlera de ce qu'on compte faire à ce propos. On a surtout beaucoup moins de personnes physiques, donc de gens comme vous et moi qui sont simples membres. Et c'est vrai qu'il y a, en 2008, on avait fait une grosse campagne d'adhésion. Donc on avait eu pas mal de gens qui étaient arrivés. Et petit à petit, parmi ces gens, il y a des gens qui ont cessé d'adhérer. Donc peut-être parce que ce qu'on faisait ne les intéressait pas, ou peut-être parce que ils sont allés voir ailleurs ce qui se faisait. Mais en tout cas, il y a une érosion au niveau des personnes physiques. Par contre, au niveau des entreprises et des réseaux d'entreprises, ça, au contraire, on a eu des nouveaux venus. On a eu quelques départs, mais on a eu pas mal d'arrivées, donc on a un solde positif. Puis au niveau des associations et des collectivités, c'est à peu près stable. On a mis juste ici un petit peu les différences en pourcentage. Donc c'est ce que je vous disais, moins 8% de personnes physiques. Alors pourquoi ça peut nous gêner? C'est parce que l'April essaye d'être une association représentative du monde du libre. Donc on a besoin d'avoir le plus de gens possible. C'est un petit peu la fameuse phrase de Staline sur le nombre de divisions du pape, c'est-à-dire que on a besoin, quand on va voir des représentants au niveau administratif, au niveau politique, de pouvoir leur dire on est représentatif des utilisateurs de logiciels libres. Donc pour ça, on a besoin d'un certain nombre d'adhérents. Et puis la deuxième utilité d'avoir des adhérents, c'est que ces adhérents payent des cotisations et que ces cotisations servent au budget de l'association et servent essentiellement à payer les salaires de nos trois permanents. Et ça, évidemment, c'est important parce que ce sont eux qui, au quotidien, font vivre l'association. On en parlera, il y a beaucoup de travail qui est fait dans l'association par des bénévoles, comme moi, comme beaucoup de gens qui sont ici. Mais il y a aussi un travail de fond qui est fait par les permanents, et notamment la suivi au long cours des dossiers. Nos permanents vont voir des responsables, par exemple, politiques ou administratifs, des chefs d'entreprise qu'ils voient depuis des années. Donc ça permet d'établir des contacts au long cours. Ils peuvent aller les voir en semaine, aux heures de bureau. Ce qu'un bénévole va avoir beaucoup de mal à faire. Donc ça permet vraiment d'avoir ce suivi dans les dossiers de l'association qu'on n'avait pas à l'époque où l'association était purement bénévole. Alors, je vous parlais du travail des bénévoles. On a la chance d'avoir à l'appui un fort bénévolat valorisé. Alors, le bénévolat valorisé, ça veut dire que quand les bénévoles font des actions pour l'April, que s'ils ne faisaient pas, on serait obligé, ou bien on ne pourrait pas le faire, ou bien on serait obligé de payer quelqu'un pour le faire. Donc en fait, on fait rentrer ce bénévolat valorisé dans les comptes, et ça nous permet de justifier encore une fois de l'activité de l'association, même si ça, évidemment, ça ne rapporte pas d'argent. Au niveau comptable, ça nous permet de rentrer dans le budget et d'afficher un budget cohérent avec tout le travail fourni par les bénévoles. C'est une manière de mettre en valeur le travail des bénévoles. Donc on a 4600 heures de bénévolat valorisé déclarés. Et je sais par expérience qu'il y a un certain nombre de bénévoles qui ne déclarent pas leurs heures. Donc ça veut dire qu'en fait, en pratique, on a plus que ça encore. Et ça, c'est en augmentation. Donc on voit bien que c'est pas corrélé au fait qu'il y ait moins d'adhérents. C'est-à-dire que les adhérents qui sont là sont encore plus actifs que l'année dernière. Hein, on voit donc que peut-être, on peut supposer que du coup l'association s'est un petit peu resserrée sur des gens qui étaient peut-être un peu plus actifs. Si vous faites des actions au nom de l'April, vous participez à des groupes de travail, vous donnez une conférence, vous tenez un stand. Évidemment, à chaque fois, je vous encourage à remplir ce bénévolat valorisé qui se fait sur le site web. Et ça permet de mettre à jour ces chiffres et d'avoir un petit peu une idée du travail bénévole. Parce que le travail bénévole, il est fondamental à l'April. Hein, les trois quarts des activités sont faites en partie ou en totalité par des bénévoles. Alors, on essaye aussi de créer du lien entre les adhérents, parce que on a des adhérents un petit peu, d'abord sur toute la France, DOM-TOM compris. On a aussi même un certain nombre d'adhérents qui sont hors de France. On a des membres en Belgique, en Suisse. On en a même vraiment dans des endroits très lointains, type Canada, États-Unis, etc. Donc, on essaye de créer du lien et on essaye de créer des rencontres chaque fois que c'est possible. Donc, ça peut être des rencontres virtuelles. Donc, ça peut être simplement se présenter, venir discuter sur IRC, envoyer des messages. On a un micro-blogging qui permet aux gens de présenter un petit peu leurs activités. Et puis, on essaye de faire en sorte que les gens puissent se rencontrer physiquement. Donc ça, c'est les pique-niques qu'on essaye d'organiser chaque fois que le temps se remet au beau. Hein. Donc, bon, en France, par chez nous, c'est très court. Hein. Ça dure 2 mois, en gros, c'est juillet-août, mais non, j'exagère. On essaye de faire ça dès qu'il fait beau. Et on essaye de faire ce qu'on appelle les April Camp, qui sont en fait des réunions de travail. C'est-à-dire que on s'installe dans un lieu qui veut bien nous accueillir, et puis on vient essayer de travailler sur les dossiers en cours. On essaye de faire avancer des choses qui sont plus faciles à faire avancer quand on se voit physiquement. Parce qu'on a beau être beaucoup d'entre nous des gens qui utilisent beaucoup l'informatique, il y a un certain nombre de choses qui vont beaucoup plus vite si on peut s'asseoir autour d'une table et en discuter que si on échange des mails et on n'a pas forcément l'attention concentrée sur le problème. Donc pour remplir votre bénévolat valorisé et poursuivre votre adhésion, vous avez sur le site de l'April un système qui a été développé par Benji qui est dans la salle. Benji, si tu veux bien nous faire un petit coucou. Merci. On peut le remercier parce que c'est des heures et des heures de travail de programmation. Et qui s'appelle donc le gestionnaire des tâches courantes et qui permet donc de gérer votre compte, d'aller voir où vous en êtes de votre adhésion, si vous avez bien payé votre solde, si vous avez rempli votre bénévolat valorisé, voilà, ce genre de choses. Ça vous permet de vous inscrire dans le trombinoscope de l'association. C'est pas une obligation, bien sûr, seulement ceux qui le souhaitent le font. Mais voilà, ça permet de se faire connaître un petit peu des autres membres. Alors, nos permanents, ça c'est vraiment les gens qui font, comme je disais, fonctionner l'association au quotidien, au jour le jour. Vous avez en haut Frédéric Couchet, donc qui est le délégué général de l'April, qui est l'ancien président de l'association, qui est donc aujourd'hui qui a été la première personne embauchée. Vous avez Aurélia Gilardi, que vous avez sans doute vu, qui est en haut de l'escalier là et que bonjour, et qui vous a reçu à l'entrée, qui s'occupe de toute la partie fonctionnement de l'association au sens secrétariat, gestion des adhérents, organisation des stands, qui par exemple lorsque des gens organisent des événements locaux va leur envoyer des documents, des imprimés, etc. Donc c'est elle qui fait fonctionner, on va dire, l'ensemble de la structure bénévole au jour le jour. Et puis on a notre chargée des dossiers institutionnels, donc Jeanne, que vous avez là dans la salle, et qui elle fait le travail ingrat d'aller voir nos responsables politiques régulièrement pour essayer de leur faire prendre conscience de l'importance du logiciel libre et plus généralement de l'informatique libre, des formats ouverts, de manière à ce que ces gens-là soient sensibilisés à des questions qui souvent, il faut bien le dire, ne les intéressent pas beaucoup de prime abord. Donc il y a un gros travail de sensibilisation à faire d'abord. Et puis ensuite, tout un travail de suivi des dossiers. Et je vous en reparlerai un petit peu plus après. Et puis on a eu cette année deux stagiaires. Donc on a eu une stagiaire, Chloé, qui s'est occupée de la partie plus juridique et qui nous a permis d'avancer sur plusieurs dossiers, notamment à la fin de la présentation, je vais vous reparler des propositions de l'April, qui est quelque chose qu'elle a participé à mettre en place. Et puis on a eu Quentin qui lui a fait un stage admin 6, hein, c'est administration système, donc plus technique, et qui a permis de faire avancer notre système d'information, notamment en mettant en place un certain nombre de logiciels qui vont nous aider par la suite, notamment un PAD, c'est-à-dire un système pour pouvoir éditer des documents à plusieurs en temps réel. Et il nous a mis en place un Mumble qui est un système pour pouvoir faire des conférences audio à plusieurs personnes, enfin voilà, ce genre de choses qui nous sont bien utiles au quotidien. Le conseil d'administration, vous en avez une bonne partie dans cette salle. Ce sont les gens qui, de manière régulière, se rencontrent, en général au moins 4 fois par an. On a fait une réunion ce matin, ici, dans ces locaux. Et lors de ces réunions, on essaye de discuter et de prendre les décisions principales concernant l'association. C'est-à-dire qu'on essaye de voir quels sont les dossiers en cours, qu'est-ce qui doit être fait, et on essaye de voir en dialogue avec les permanents quels sont les dossiers peut-être sur lesquels il faut insister, quels sont les dossiers où peut-être on peut mettre un petit peu en attente. Et voilà, on essaye un petit peu de voir quels sont les axes principaux sur lesquels l'April doit travailler. On va remercier la société TechLib qui en fait nous accueille en nous sous-louant un bureau chez eux. Alors en ce moment c'est en travaux, alors là vous voyez un peu la photo, mais c'est un peu le bazar, mais c'est normal. C'est que en fait tout est en travaux, c'est une société qui est en train de refaire ses locaux entièrement. Donc nos permanents travaillent au son des marteaux-piqueurs depuis quelques semaines. Donc voilà, on espère que ça va s'améliorer bientôt. Et donc ça nous permet d'avoir des bureaux dans Paris avec une très belle adresse rue de Rivoli, bon c'est le hasard mais voilà. Et ça permet surtout d'accueillir, alors pas autant qu'on le voudrait, mais ça permet aussi d'accueillir certains bénévoles qui peuvent ponctuellement venir travailler avec les permanents sur des dossiers. Voilà, on peut, quand on a besoin, on peut venir passer une heure ou une après-midi au local de l'April pour travailler. Malheureusement, ce local n'est pas, enfin, le bureau qu'on nous a proposé n'est pas très très grand, donc on peut pas y accueillir, par exemple, des réunions comme celle-ci. C'est impossible, mais on peut venir à 2-3 personnes travailler. Donc ça peut être intéressant pour les gens. Alors évidemment, les gens d'Île-de-France, parce que c'est plus facile pour eux de venir, mais aussi on a certaines personnes qui viennent des régions et qui vont être de passage sur Paris et qui peuvent comme ça venir passer une demi-journée, une journée dans les locaux pour travailler. Et accessoirement pour boire un coup le soir. On a organisé 3 April Camp, donc je vous en parlais rapidement. Donc ce sont des réunions de travail, mais faite à la bonne franquette autant que possible, c'est-à-dire on essaie de se réunir dans un endroit convivial. Voilà, on achète un peu à manger et puis on se met à travailler en fonction des desiderata des uns et des autres sur tel ou tel dossier. Ce sont donc des rencontres physiques. En général, ça se passe sur tout un week-end, donc ça démarre le vendredi soir, ça finit le dimanche soir. Ce qui fait que les gens qui ont besoin peuvent éventuellement coucher sur place pendant 2 jours. Et ça permet d'avancer beaucoup certains dossiers où, encore une fois, il y a besoin de rencontres physiques parce que ça va beaucoup plus vite de faire une réunion de 2 heures que d'échanger des mails pendant des semaines. Et surtout, ça évite des fois certaines incompréhensions qu'on peut avoir à l'écrit, tandis que là, on peut tout de suite réagir et interagir. On peut remercier Vincent Calam, ici présent, qui met souvent à notre disposition des locaux au niveau de la FPH, donc la Fondation pour le Progrès de l'Homme, mais il manque un mot. Charles-Paul Meyer pour le Progrès de l'Homme, qui très gentiment nous met gratuitement à disposition des locaux, donc dans Paris. On a également mis en place des revues hebdomadaires, c'est-à-dire que sur IRC, donc en direct, tous les vendredis midi, à midi pile, nous sommes un certain nombre à se retrouver sur IRC, donc par Internet, et à faire un petit peu le bilan de la semaine. C'est-à-dire que chacun explique un petit peu ce qu'il a fait dans la semaine passée et ce qu'il va faire dans la semaine qui vient. Ça permet de faire un petit peu un planning de ce qu'il y a à faire, ça permet de se tenir au courant de ce que font les autres et éventuellement donc de réagir s'il y a besoin. On organise, comme je vous disais, donc des pique-niques. Donc là, ça parle pas d'informatique. Enfin, en tout cas, on essaye de pas trop parler d'informatique. On essaye de parler justement de tout ce qu'il y a au-delà de l'informatique, c'est-à-dire les rapports humains. Et on essaye de faire des choses un petit peu conviviales. On essaye d'inciter les gens à en faire notamment hors de Paris, parce que c'est souvent... Là où l'April est parfois vue comme une association un petit peu parisienne, et en fait, dans la réalité, on a énormément de membres qui ne sont pas parisiens, et donc on les incite à essayer de faire ce genre de rencontres chaque fois que c'est possible. Et puis, bon, il y a un petit côté amusant qu'on essaye de... Enfin, on essaye de travailler sérieusement, mais de ne pas se prendre trop au sérieux, et donc, traditionnellement, chaque année, le 1er avril... L'April publie une actualité fictive, évidemment. Et cette année, donc, l'actualité, c'était qu'on avait réussi à faire une interview avec un membre de la mafia d'Internet. Et voilà. Et ce sont des petits aspects à la fois comiques et puis qui permettent quand même de mettre le doigt sur un sujet sérieux par ailleurs, d'une manière un peu décalée. Comme chaque année, nous envoyons nos vœux à un certain nombre de gens avec qui nous sommes en contact. Donc, je vous disais, voilà, ça peut être des responsables d'associations, des responsables administratifs ou politiques avec qui on a été amené à travailler. Et chaque année, on leur envoie une petite carte de vœux pour se rappeler à leurs bons souvenirs. Donc, vous avez celle de 2012 qui est là, donc avec un dessin qui évoque un petit peu les dangers qui, selon nous, menacent le logiciel libre. Et puis, vous avez celui de 2013 qui vient de partir, et qui montre un petit peu le travail qui est fait au niveau des propositions que nous souhaitons porter. Alors, je vais vous présenter un peu les dossiers qui ont été traités en 2012. D'abord, l'April fonctionne sur une feuille de route qui a été établie il y a quelques années, en 2009. Et cette feuille de route, c'est un petit peu notre guide pour savoir sur quoi il faut travailler, de manière générale, ce qui ne nous empêche pas ponctuellement de se mettre à travailler sur un dossier qui n'est pas dans cette feuille de route, bien sûr. Mais c'est un petit peu une ligne directrice. Donc il y a les 4 dangers que je viens d'évoquer, DRM, brevet logiciel, vente liée, informatique déloyale. Ça, ce sont des choses qui nous occupent depuis les débuts de l'April. Ce sont des choses contre lesquelles il faut à chaque fois combattre et recombattre. Ce sont des choses qu'on sort par la porte, qui reviennent par la fenêtre, enfin ce genre de choses. Donc on est toujours en train de s'activer sur ces dossiers-là. L'éducation, et notamment ce qui se passe au niveau de l'éducation nationale. Je vous en reparle un petit peu plus tard. Tout ce qui est format ouvert et interopérabilité, ça nous concerne beaucoup au niveau notamment des administrations, pour s'assurer que les administrations communiquent avec nous, c'est-à-dire leurs administrés, via des formats de documents ouverts, interopérables, ce qui n'est pas toujours le cas. L'accessibilité au sens numérique, c'est-à-dire s'assurer que les gens qui rencontrent des difficultés pour pouvoir accéder à des documents, qui ont des problèmes pour les lire par exemple, vont pouvoir y accéder, et que donc le respect des normes d'accessibilité est bien fait. Et puis les marchés publics, ça je vous en parle aussi un petit peu tout à l'heure, c'est l'idée que quand les administrations veulent acheter des fournitures ou des services en informatique, on est là pour essayer de leur rappeler que c'est pas systématiquement Microsoft. Et dans les dossiers émergents, on a un dossier qui ressort, qui est la recherche. C'est un monde où beaucoup de gens travaillent maintenant en informatique, bien au-delà de la recherche en informatique. Pratiquement toutes les sciences aujourd'hui utilisent de l'informatique pour travailler. Et on essaye de voir de quelle manière on peut inciter ces chercheurs à utiliser préférentiellement des logiciels libres, mais aussi voir comment ils peuvent publier, sortir leur publication, peut-être sous des licences libres, ce genre de choses. Donc on essaye de voir comment on peut inciter les chercheurs, qui souvent d'ailleurs utilisent déjà des logiciels libres dans leur fonctionnement quotidien, peuvent être incités à le faire savoir et à propager cette pratique. Un des principaux dossiers qu'on a traité cette année, c'est les brevets logiciels, à cause d'un projet au niveau européen qui s'appelle le brevet unitaire, qui est un projet donc au niveau de l'Europe, qui consistait à ce que les entreprises puissent déposer un seul brevet qui serait valable sur toute l'Europe d'un seul coup. Alors qu'aujourd'hui, la situation actuelle, c'est qu'ils sont obligés d'aller déposer un brevet dans chaque pays, puisque chaque pays a un système de brevets séparé. Donc l'unification de ce système de brevets, a priori, n'aurait pas dû poser problème, sauf que, tel que c'est fait actuellement, ça va être confié à un office qui s'appelle l'Office européen des brevets. Et cet Office européen des brevets, historiquement, nous pose beaucoup de problèmes parce que de longue date, ils acceptent des brevets sur les logiciels. Brevets sur les logiciels qui ont été interdits au niveau de l'Europe depuis plusieurs années. Il y a eu des décisions très claires du Parlement européen pour interdire les brevets logiciels. Mais malgré tout, l'Office européen des brevets, contrairement à ce que son nom indique, en fait, est décorrélé du Parlement européen. Il n'est pas soumis au Parlement européen. Et par conséquent, ils font un peu ce qu'ils veulent, et ils ont notamment pris tout un tas de, enfin, ils ont accepté l'argent d'entreprise pour pouvoir déposer tout un tas de brevets sur des logiciels. Et ça a un effet très pervers, c'est-à-dire que derrière, du coup, comme ils ont pris ces brevets et qu'ils ont pris l'argent des entreprises, ils sont incités à essayer de pousser le législateur à accepter les brevets sur les logiciels en Europe. Et ça, c'est quelque chose qui nous semble extrêmement dangereux pour les développeurs, de manière générale d'ailleurs, pour tous les développeurs européens, parce que ça concerne directement les développeurs de logiciels libres, qui n'auront pas les moyens de se constituer des portefeuilles de brevets, mais ça concerne aussi beaucoup de développeurs qui ne font pas de libre, mais qui n'auront pas la taille des géants multinationales type IBM, Microsoft, Apple, comme vous avez peut-être vu récemment, les guerres de brevets qui se font à coups de milliards de dollars. Donc évidemment, les développeurs européens, là-dedans, seront complètement écrasés. Donc on a essayé de combattre ça aussi vigoureusement qu'on le pouvait. Et on a un de nos membres qui s'appelle Gibus, qui a été extrêmement actif là-dessus, qui a monté un site que je vous conseille d'aller voir si le sujet vous intéresse, qui s'appelle donc brevetunitaire.eu. Et qui a vraiment passé énormément de temps à suivre ce qui se passait au Parlement européen, suivre les discussions, faire des annonces, faire des actualités pour mettre à jour le site, et qui donc a fait beaucoup de travail là-dessus. Et puis Jeanne, notre permanente aussi, a travaillé sur ce dossier, et donc ça a été un des gros investissements de l'année. Le résultat n'est pas très satisfaisant, puisque globalement, le projet de brevet a été à peu près accepté par le Parlement. Voilà, mais on a eu l'occasion d'aller voir des parlementaires, de les mettre en garde contre les problèmes que ça posait. Et on espère surtout que dans les années qui viennent, les parlementaires européens vont s'assurer que ce qu'ils ont voté il y a quelques années reste vrai, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de brevet logiciel en Europe. ACTA a aussi occupé une bonne partie de l'année, de la première premier semestre de l'année. Donc je vais survoler rapidement parce que je suppose que beaucoup de gens sont déjà au courant. Donc ACTA était un accord international anti-contrefaçon qui avait été négocié en secret, qui a été proposé au niveau du Parlement européen. Et suite à des campagnes intenses de citoyens, notamment menées par la Quadrature du Net, donc l'April s'est aussi beaucoup associé à ça, on a participé, on a fait des manifs, on a essayé de faire jouer nos contacts, et on a réussi à convaincre les parlementaires européens de rejeter cet accord. Alors ça, c'était une très bonne surprise déjà, mais malheureusement, c'est un petit peu comme les quatre dangers dont je vous parlais tout à l'heure, on les jette par la porte et puis ça revient par la fenêtre de derrière. C'est-à-dire qu'on commence déjà à entendre parler d'accords internationaux ou entre certains pays dans lesquels il y aurait de nouveau des clauses qui seraient néfastes au logiciel libre. Donc on essaye d'être attentif avec ça, notamment en partenariat avec la Quadrature du Net. On a aussi travaillé sur l'action de groupe. Ça, c'est quelque chose qu'on demande. L'action de groupe, c'est la possibilité pour les consommateurs qui s'estiment victimes d'une entreprise de pouvoir agir tous ensemble en faisant une seule action en justice, pour simplifier, un seul procès. Jusque-là, dans le droit français, si on est 10 000 à avoir acheté une casserole qui marche pas, il faut qu'on fasse 10 000 procès pour se faire rembourser. Je caricature, hein. Donc la plupart des gens, du coup, évidemment, ne le font pas. Avec l'action de groupe, on peut embaucher un seul avocat qui va traiter un seul dossier, et si l'entreprise est reconnue coupable, par exemple, de malfaçon, elle va devoir payer pour l'ensemble du préjudice de tous les consommateurs. Donc ça marche dans un certain nombre de pays, notamment aux États-Unis et au Canada, depuis longtemps, et ça permet aux consommateurs d'avoir un certain poids dans le travail des entreprises. Et nous, ça nous importe au niveau du logiciel libre parce que ça nous permettrait de faire pression sur les constructeurs d'informatique pour s'assurer qu'ils puissent nous vendre des appareils qui ne soient pas fournis d'office avec des logiciels libres. Alors l'exemple typique, c'est les PC que l'on peut acheter et qui sont pour la plupart dans le commerce vendus avec Windows systématiquement et en général en plus quelques autres logiciels non libres. Donc l'idée, c'est de pouvoir éventuellement utiliser cette action de groupe pour peser sur les entreprises qui fabriquent de l'informatique. Et de plus en plus, ça va être le cas des smartphones, des tablettes, bien sûr. La circulaire Hero, alors ça, ça a été une bonne nouvelle qui est arrivée donc en début de... Ça doit être septembre, donc en début d'année scolaire. C'est une circulaire que le Premier ministre a signée demandant aux administrations françaises de bien prendre en compte le logiciel libre dans leurs activités. Alors, c'est une circulaire très générale. Hein, vous en trouvez une copie sur le site de l'April. C'est une déclaration de principe. C'est-à-dire que c'est très bien parce que ça dit, voilà, le logiciel libre doit être pris en compte par les administrations françaises. Donc ça, ça nous convient. Mais le souci, c'est que maintenant, il faut s'assurer que les administrations françaises vont effectivement implémenter cette circulaire. Et c'est là où le travail commence, c'est-à-dire c'est là où il va falloir qu'on essaye d'être vigilant sur cette implémentation. Donc il y a deux cas pratiques en ce moment, c'est d'abord au niveau de l'éducation nationale, où on aimerait bien que effectivement au sein de l'éducation nationale, le logiciel libre soit utilisé en priorité. Or on a un certain nombre de grandes entreprises qui font du forcing pour essayer d'être présents dans les écoles. Et puis, on a le souci du ministère de la Défense qui est en train de préparer la reconduction d'un accord avec la société Microsoft, qui est un accord qu'on appelle Open Bar. Alors, ça porte bien son nom, ça veut dire qu'en gros, pendant les quatre dernières années, Microsoft permettait au ministère de la Défense de se servir dans sa collection de logiciels pour un espèce de montant global. Et le problème que ça donne, c'est que d'abord, du coup, les gens étaient incités à utiliser des produits Microsoft, avec toutes les problématiques que ça peut avoir, même de sécurité nationale, et puis évidemment d'indépendance de l'administration. Et puis, surtout, ça a permis à Microsoft d'implémenter un centre de ressources Microsoft au sein même du ministère. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment rentrés dans le ministère de la Défense. Et si ça, on le laisse faire, eh bien, évidemment, c'est la porte ouverte ensuite pour qu'ils fassent la même chose dans tous les autres ministères français. Donc on essaye d'attirer l'attention des parlementaires et puis des responsables du gouvernement, bien sûr, pour qu'on mette fin à ces pratiques qui, en plus, sont très probablement illégales, puisqu'il n'y a pas eu d'appel d'offres, à ma connaissance, il n'y a pas eu de compétition possible pour les entreprises qui proposent des logiciels libres. Alors, au niveau entreprise, économie et innovation, on a donc fait l'action contre le brevet logiciel au niveau du brevet unitaire dont je vous parlais. Ça concerne vraiment beaucoup d'entreprises du libre, parce que si demain les entreprises du libre se voient imposer de payer des royalties pour pouvoir utiliser tel ou tel type de code en Europe et a fortiori en France, on a beaucoup de SS2L qui vont se retrouver en difficulté. Et ça, c'est quelque chose auquel on est attentif. Et puis, on a donc les appels d'offres de l'administration. Alors, l'exemple du ministère de la Défense est typique, mais il y a beaucoup d'appels d'offres où, même sans y faire attention, les administrations ont tendance à demander, par exemple, le renouvellement d'un parc informatique avec des PC sous Windows, sans même s'apercevoir qu'en faisant ça, j'ai un écho là tout d'un coup. Et en faisant ça, il ne respecte pas le droit des marchés publics. Et puis, on a organisé un April Entreprise Camp qui permet donc aux entreprises membres de l'April de se réunir et pendant une journée de travailler sur des dossiers spécifiques aux entreprises du libre. Donc notamment le dernier en 2012, c'était sur le terme producteur de logiciels libres. Ça permet aux entreprises de discuter des problématiques spécifiques au monde des entreprises du libre. Au niveau européen, vous avez donc eu ACTA, j'en ai parlé, le brevet unitaire, et puis il y a eu un certain nombre de consultations, dont notamment une consultation qui s'appelle IPRED sur ce qu'on appelle la propriété intellectuelle au niveau européen. Donc ces consultations au niveau européen, c'est le moment où l'Europe essaye de donner la parole aux citoyens. Mais alors le problème qu'on y voit, c'est que d'abord, donc sur cette consultation, ça parlait de propriété intellectuelle, qui est un terme qui nous semble très trompeur, qu'on essaye de dénoncer, parce que quand on va un petit peu dans le détail, la propriété intellectuelle, ça mélange des choses qui n'ont rien à voir, comme le droit d'auteur, qui est le droit que nous utilisons pour les logiciels libres, et par exemple les brevets. Et ça nous semble extrêmement dangereux de mélanger ça, ça mélange le droit des marques, ça mélange un certain nombre de choses comme ça. Et ça nous paraît très dangereux de mélanger tout ça sous un même terme, parce que le droit d'auteur, ça nous est utile pour les logiciels libres, pour diffuser nos logiciels sous des licences libres, alors qu'à contrario, les brevets, c'est extrêmement dangereux pour nous. Donc déjà, on essaye de faire bien ce distinguo. Et puis le problème de ces directives, c'est que très régulièrement, on fait des consultations au niveau européen, mais on ne voit jamais déboucher de résultats. C'est-à-dire, on a l'impression que ces consultations, c'est un petit peu pour dire, bon, on passe la parole aux gens, mais derrière, on continue à faire comme on veut. L'interopérabilité, c'est le fait de s'assurer donc que quand on a des documents, on puisse les lire avec différents systèmes et différents logiciels. On a participé au Document Freedom Day, qui est une journée pour encourager les gens donc à prendre conscience de l'importance de l'interopérabilité des formats de fichiers ouverts. Et pour tout le monde, c'est-à-dire ça va de vous, moi, pour nos données personnelles, nos photos, nos vidéos, nos textes, on veut être sûr de pouvoir les relire dans 10 ans, dans 20 ans. C'est bien sûr fondamental pour les administrations qui doivent conserver sur le très long terme les documents qu'elles produisent. Et puis bien sûr pour les entreprises, qui elles aussi doivent être amenées à pouvoir gérer des documents sur le long terme. Et puis on a publié un poster, un dépliant que je vous encourage à aller voir, qui est assez bien fait et qui donc parle de ces notions de format ouvert. Et donc ce petit dépliant, on le distribue chaque fois qu'on en a l'occasion, quand on fait des conférences, des ateliers, quand on tient des stands, on essaye de le diffuser. Les marchés publics, c'est ce dont je vous parlais déjà un petit peu tout à l'heure, c'est cette idée que les administrations, lorsqu'elles font des achats d'un certain montant, doivent proposer aux différentes entreprises de participer. Donc elles ouvrent un marché et normalement toutes les entreprises doivent pouvoir proposer leurs services et ensuite c'est au meilleur offrant. Or le problème c'est que dans ces marchés publics, il y a souvent des choses comme par exemple donc on demande de l'informatique avec telle ou telle marque de logiciel. Bon, ça c'est contraire au code des marchés et donc on essaye d'aller voir les responsables, notamment dans un certain nombre de départements, de régions qui ont émis ces marchés, pour aller les voir leur disant, bah, écoutez, votre marché n'est pas conforme, il faudrait que vous le reformuliez. Et on essaye de... Alors ça, c'est du travail de longue haleine, parce que en plus, souvent, les gens qui font ça ne le font pas forcément de mauvaise foi. Simplement, ils ont tellement été habitués que, effectivement, pour eux, un PC, c'est forcément avec Windows, par exemple. Un Mac, c'est forcément avec Mac OS. Alors on essaie de leur expliquer que non. Il y a une décorrélation entre le matériel et le logiciel. Et puis, il y a eu l'année dernière une assignation en justice contre l'April et nommément contre son président, Tanguy Morlier, parce que nous avions dénoncé un contrat qui avait été passé par la direction informatique de Marseille, de la ville de Marseille, avec Microsoft. Et la personne, le fonctionnaire qui était responsable de ça, a considéré que voilà, il était mis en cause par cette accusation, ce qui n'était pas tout à fait faux. Mais donc il a porté plainte contre un certain nombre de gens, donc notamment Framasoft de mémoire et puis nous. Et on a engagé un avocat qui a mené le dossier et donc le juge s'est prononcé pour rejeter sa requête. Non pas sur le fond, c'est-à-dire le juge n'a pas été voir vraiment les arguments, mais sur le fait qu'en fait il l'avait fait trop tard, c'est-à-dire qu'il avait fait sa demande plusieurs mois après que nous ayons publié une actualité, et donc que c'était trop tard, et juridiquement ça n'était plus valable. Voilà, donc ça nous a quand même coûté un petit peu d'argent, parce que ce monsieur a été obligé de rembourser un certain nombre de frais de justice aux associations qu'il avait mis en cause, mais le remboursement ne couvre pas l'ensemble des frais d'avocat. Donc l'April a dû débourser aux alentours de, je crois, de 1 000 euros pour défendre sa conviction, on va dire. Mais ça valait le coup. Alors, candidat.fr, ça c'est quelque chose qu'on essaye de faire régulièrement maintenant depuis plusieurs années, chaque fois qu'il y a des élections au niveau national et au niveau européen. Donc là, cette année, ça vous a pas échappé, j'imagine, sauf si vous viviez dans un igloo, je ne sais où, qu'il y a eu des présidentielles et des législatives en France. Donc, présidentielle, on a envoyé des cahiers assez fournis, hein, qui sont en ligne sur le site, que je vous encourage à aller lire, si ça vous intéresse, pour demander aux candidats à la présidentielle ce qu'ils pensaient de tout un tas de sujets autour du logiciel libre. Alors, c'est assez large. Hein, on a parlé d'accessibilité, par exemple, éducation, de tout un tas de domaines qui nous concernent. Et on leur a proposé de répondre à un questionnaire. Alors, un certain nombre d'entre eux qui sont cités là ont bien voulu répondre. Alors, évidemment, leurs réponses ne sont pas forcément favorables au logiciel libre, hein, mais au moins, ils ont fait l'effort de répondre. Et aux législatives, donc, c'est un système un petit peu différent. C'est un document beaucoup plus simple, qui tient sur une page, qui s'appelle le pacte du logiciel libre. Et là, on incite l'ensemble des adhérents de l'April à aller rencontrer leurs candidats. Tout simplement au moment où les gens sont candidats, parce que c'est un des moments où c'est le plus facile de les aborder. C'est le moment où ils tiennent des permanences, ils vont sur les marchés, ils font des réunions publiques, ce genre de choses. Donc c'est un peu plus facile d'aller les aborder et de leur proposer de signer un petit document, le pacte du logiciel libre, qui leur permet de prendre connaissance de ce sujet. Et donc on a eu donc 466 candidats qui ont bien voulu signer. Et on en a 42 qui ont été élus à l'Assemblée sur, je crois, 600 et quelques membres de mémoire. Donc c'est pas trop mal. Et surtout, ce sont des gens après sur qui on peut s'appuyer quand on a des propositions à porter, quand on soulève des problèmes, par exemple, autour du logiciel libre. On peut aller voir ces gens-là en lui disant, ben, est-ce que vous vous rappelez de nous? On a été vous voir au moment de l'élection. Est-ce que vous pouvez nous aider pour tel ou tel dossier? On a un sujet aussi très récurrent, donc c'est la vente liée, donc je viens d'en parler. Cette vente liée, c'est le fait que quand vous achetez des ordinateurs, il est très difficile de les acheter sans logiciel propriétaire. Généralement, où il faut vraiment s'y connaître et aller voir des petits revendeurs spécialisés pour obtenir du matériel qui soit sans logiciel ou avec des logiciels libres. Donc ça, c'est une campagne de fond qui est menée notamment par l'AFUL, par son groupe de travail qui s'appelle Racketticiel. Et donc, elle a pris le soutien, le travail de ce groupe, qui consiste à insister des gens qui ont inciter des gens qui ont acheté des ordinateurs à aller réclamer le remboursement des logiciels propriétaires dont ils ne veulent pas. Et il y a eu des décisions assez intéressantes. Il y a eu plusieurs juridictions de proximité qui ont fait des déclarations, des jugements très très clairs, disant que les consommateurs étaient dans leur droit pour demander le remboursement des logiciels qu'ils ne voulaient pas. Et que c'est pas parce qu'ils les avaient achetés avec le matériel qu'ils étaient obligés de les payer. Et puis, il y a une affaire en cours entre l'UFC Que Choisir et Hewlett-Packard qui est montée jusqu'en cour d'appel, qui a été qui est passée en cour de cassation. Et la cour de cassation a renvoyé à la cour d'appel, essentiellement parce que les fondements, d'après elle, du droit qui avait été utilisé n'étaient pas bons. Je n'entrerai pas dans les détails juridiques, j'en serais bien incapable. Mais c'est une affaire qu'on suit parce que si elle débouche positivement pour nous, on pourra s'appuyer dessus. C'est comme l'action de groupe, on peut s'appuyer dessus après pour demander aux fabricants de nous vendre des ordinateurs sans logiciel propriétaire. Alors, j'ai presque fini ma présentation. Je vais vous parler des propositions de l'April. C'est quelque chose qu'on a démarré cet été et ça consiste essentiellement à dire que dans les cahiers candidats.fr dont je vous ai parlé à l'instant, on avait transmis aux candidats un certain nombre de propositions. C'est-à-dire, on leur disait, vous pourriez prendre position pour les logiciels libres à l'école, pour les logiciels libres dans l'administration, ce genre de choses. Et on s'est aperçu que toutes ces propositions, elles étaient un petit peu éparpillées donc dans le site candidats.fr, elles n'étaient pas forcément très visibles. Et surtout, elles n'étaient pas regroupées dans un seul document. Donc, ce que a commencé à faire notre stagiaire Chloé, dont je vous parlais tout à l'heure, c'est de réunir ces propositions qui avaient déjà été faites un peu dans différents endroits et de les mettre en forme sur notre wiki, de manière à ce que tous les adhérents de l'April puissent prendre connaissance de l'ensemble des propositions que porte l'association, puissent les lire, les critiquer, éventuellement en proposer d'autres, si vous considérez que il manque certaines propositions. C'est le moment de nous en parler puisqu'on est en train de les mettre en place et qu'ensuite ça nous permettra d'avoir un espèce de document général qui résumera tout ce que l'on demande, de manière à ce que quand on aille voir des responsables politiques, on puisse leur dire voilà, ce que l'April souhaite c'est ça et ça et ça. Donc les propositions sont volontairement limitées en quantité, hein, il n'y en a pas 250, il y en a peut-être une vingtaine et c'est déjà beaucoup. Et donc, c'est le moment de venir nous dire ce que vous en pensez, nous dire si c'est pertinent et nous dire si vous en voyez des choses importantes qui manquent. Alors, les DRM, on a juste participé. Donc, les DRM, ce sont ce qu'on appelle les menottes numériques, les verrous numériques. C'est ce qui peut vous empêcher de lire, par exemple, un Blu-ray avec des logiciels libres. C'est ce qui peut vous empêcher de lire de la musique que vous avez achetée sur certains sites avec des logiciels libres, ce genre de choses. Ces DRM, on participe tous les ans à une journée mondiale contre les DRM pour essayer de parler de la chose parce que c'est un sujet très technique, donc beaucoup de gens ont tendance à passer à côté jusqu'au jour où ils le prennent dans la figure. C'est-à-dire que, par exemple, ils ont acheté des musiques ou des livres numériques et puis du jour au lendemain, ils ne peuvent plus les lire. Et on a eu un cas magnifique l'année dernière, je crois, où on a eu des gens qui avaient acheté le roman 1984 de George Orwell et ils l'avaient acheté sur le site Amazon.fr. Et quand Amazon s'est aperçu après coup qu'ils n'avaient en fait pas les droits pour vendre ce roman, ils ont envoyé des messages à leur liseuse qui s'appelle le Kindle et la liseuse, qui est ni plus ni moins qu'un petit ordinateur spécialisé, à effacer les fichiers chez les particuliers. Donc ça veut dire que c'est l'équivalent d'un gars d'une entreprise qui vient chez vous et qui efface les livres dans votre bibliothèque. Hein. C'est ça ce que ça veut dire. Vous vous retrouvez avec des bouquins, mais ils sont vides. Donc c'est ce qui est arrivé aux gens qui avaient acheté ces livres numériques. Donc quand on commence à évoquer ce genre de problème, ça parle un peu plus aux gens. Donc ça, on essaye de mettre ça en avant. Et on essaye de, voilà, d'expliquer aux gens que ça a des répercussions sur leur vie privée. Et puis, on a essayé de contribuer à une journée mondiale qui s'appelait la Journée mondiale de la propriété intellectuelle. Encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, je ne reviens pas dessus, en dénonçant l'amalgame qui est fait entre tout un tas de lois comme le droit d'auteur, les brevets, le droit des marques, alors que tout ça n'a rien à voir et devrait être traité bien séparément. Je vais vous présenter rapidement les groupes de travail. Je vais essayer d'aller assez vite parce que je voudrais laisser de la place pour les questions et les interactions. Je rappelle que tous les groupes de travail de l'April sont gérés par des bénévoles. Et c'est du travail donc qui est fait par des gens qui, comme vous et moi, essayent de s'impliquer dans certains dossiers, dans certains sujets. Et donc, vous êtes bien sûr tous les bienvenus, si vous n'êtes pas dans un groupe de travail de l'April, vous êtes tous les bienvenus pour venir rejoindre un de ces groupes et participer. L'accessibilité, j'en ai parlé, c'est un sujet qu'on traite grâce à un groupe de travail qui a réalisé ce qu'on appelait un access camp. C'est-à-dire l'idée, c'est que des gens qui ont des difficultés d'accès puissent se réunir et exposer leurs problèmes et éventuellement trouver des solutions. Donc ce sont des gens qui peuvent avoir typiquement des handicaps visuels, des handicaps auditifs, des handicaps pour manipuler un clavier, enfin ce genre de choses. Donc ce sont des gens qui peuvent avoir besoin d'informatique dans la vie de tous les jours et même parfois l'informatique peut leur servir d'aide pour pallier à ce handicap. Typiquement, par exemple, je connais le cas d'une personne qui a des problèmes d'audition parce qu'elle a des acouphènes. Elle peut, avec des logiciels libres, régler les niveaux de certaines fréquences de ce qu'elle écoute de manière à mieux entendre ce qu'on lui dit. Voilà, ça, c'est des choses aussi simples que ça. Et il y a pas mal de choses qui peuvent être résolues par des logiciels libres, mais souvent les gens n'en ont pas forcément connaissance, donc on essaye de leur expliquer. Donc il y a eu plusieurs ateliers qui ont été mis en place. Et puis, on a eu la responsable du groupe de travail depuis plusieurs années, qui s'appelle Harmonie, qui a décidé de quitter le groupe en fin d'année. Donc, j'ai essayé de prendre un petit peu la suite, au sens où j'ai essayé de continuer à animer un petit peu le groupe et à s'assurer que les autres personnes qui étaient impliquées dans ce groupe continuent d'être actives. Mais nous sommes à la recherche d'un animateur pour ce groupe de travail. Donc voilà, si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à venir nous voir. L'administration des serveurs est faite par un certain nombre de gens, dont je vois Loïc ici, je ne sais pas s'il y a Théo, Benji, ouais, voilà, Théo là-haut, VX qui est au bout, donc font le travail extrêmement ingrat de faire de l'administration système, c'est-à-dire que quand tout va bien, on leur dit rien. Et quand ça va mal, on leur tape dessus. Donc voilà, donc c'est eux qui font en sorte qu'on ait un site web, un wiki, etc., qui fonctionne au jour le jour. Et on a eu la chance d'avoir le stage de Quentin, dont je vous ai un petit peu parlé, là, qui est venu pendant plusieurs mois nous prêter main forte. Le groupe de travail animation essaye d'encourager donc les membres de l'April à participer aux activités, donc les groupes de travail, faire des ateliers, faire des April Camp, ou tout simplement faire des pique-niques. Et donc, on essaye d'expliquer un petit peu aux gens comment ça se passe. Et on a mis en place un questionnaire, qui est un questionnaire pour demander aux adhérents justement ce qu'ils attendent de l'association. Parce que on n'a pas toujours de retour et on ne sait pas toujours ce que les gens attendent de nous. Donc voilà, on a demandé à un certain nombre de gens et on a eu le plaisir de constater que pas mal de gens avaient répondu. Je crois qu'on a eu 900 réponses. Donc c'était très bien et on est en train d'étudier ces réponses pour voir ce qu'on peut tirer comme enseignement de ces questionnaires. Le groupe diversité part d'un constat, c'est que on est beaucoup à l'April de gens qui s'intéressent à l'informatique, donc souvent des geeks. On est énormément d'hommes et très peu de femmes. Il y a très peu de gens de différentes minorités. Voilà, donc on a des problèmes, enfin on considère qu'on a des problèmes de diversité. Je sais pas si c'est un problème, mais par exemple dans nos adhérents, on a 7% de femmes. C'est-à-dire 93% d'hommes. Bon, ça nous paraît bizarre. alors que en moyenne en France, il y a un peu plus de femmes que d'hommes, si je ne me trompe pas. Donc on aimerait bien essayer de voir comment on peut améliorer ça. Et ce qu'on peut faire, nous, à notre niveau, c'est-à-dire améliorer l'accueil, améliorer peut-être le fonctionnement de l'association, changer peut-être notre image. Enfin, il y a sûrement des choses à faire pour améliorer ça. Et donc, on a organisé une soirée diversité le 12 octobre pour essayer justement que les gens puissent s'exprimer sur ce sujet. Donc, il y a eu tout un tas de gens qui sont venus parler de ça. Et voilà, ça peut nous permettre, on l'espère, à moyen terme, d'améliorer la diversité des membres de l'April. Au niveau éducation, on a un groupe de travail qui essaye d'être actif sur toutes les problématiques au niveau, alors de l'éducation en général, hein, ça peut aller bien sûr au-delà de l'éducation nationale, mais on a beaucoup de choses en ce moment faites sur l'éducation nationale, parce que comme je vous disais, il y a la circulaire Hérault, donc ça, de cette circulaire découle un certain nombre d'implications pour le logiciel libre dans les administrations. Donc voilà, l'éducation nationale est un de nos focus. Et on a donc écrit au ministre de l'Éducation, Vincent Peillon, pour attirer son attention sur ça et lui demander ce qu'il comptait faire dans le cadre de cette circulaire. Et on a eu des rendez-vous avec un conseiller. Et donc voilà, c'est un dossier qu'on suit activement pour s'assurer que voilà, dans les années qui viennent, l'informatique libre va bien être prise en compte au sein de l'éducation nationale. Alors, la Libre Association est une association qui essaye de faire un pont entre le monde des associations et le logiciel libre, parce qu'on pense qu'il y a des liens directs de partage de temps, de bénévoles qui viennent travailler ensemble sur un sujet qui leur tient à cœur. Et on s'est aperçu que beaucoup d'associations n'utilisaient pas de logiciel libre, ou en tout cas pas sans le savoir. Donc le but, c'est d'essayer de sensibiliser l'ensemble du monde associatif à l'intérêt qu'il y a pour elle d'utiliser des logiciels libres. Et pour ça, on a réalisé un super guide que je vous encourage à aller télécharger sur le site, qui s'appelle le guide Libre Association, qui a été fait par des bénévoles de l'April et qui a été imprimé grâce au Crédit Coopératif qui nous a donné des sous pour en tirer un certain nombre d'exemplaires qui ont été distribués dans les réseaux du Crédit Coopératif. Ce qui permet donc, ce qui a permis aux gens, même ceux qui ne font pas beaucoup d'informatique, d'avoir une version papier de ce guide. Et puis, bien sûr, le guide est disponible en téléchargement gratuit sous format PDF. On a un projet en cours grâce au soutien de la Fondation pour le Progrès de l'Homme, dont je parlais tout à l'heure, pour monter un prix du logiciel libre à utilité sociale, citoyenne ou environnementale. Donc, ça serait l'idée de récompenser des gens qui développent un logiciel libre qui est une utilité sociale typiquement et ce qui permettrait de mettre en valeur certains projets qui sont peut-être moins connus ou moins valorisés. Et on est en train donc de réfléchir à ce prix. Et voilà, si c'est un sujet qui vous intéresse, là aussi, n'hésitez pas à venir nous en parler. Et puis, on a monté très récemment une liste dédié à ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire, parce que là aussi, il nous semble que entre les gens qui font l'économie sociale et solidaire et le logiciel libre, il peut y avoir des points de rencontre, il peut y avoir des échanges, et donc on essaye de voir comment on peut faire rencontrer ces deux mondes. La recherche, c'est un groupe qui a été créé assez récemment. Je vous en ai touché deux mots. C'est l'idée de proposer aux gens qui sont dans le monde de la recherche, qui est aussi connecté en général avec l'enseignement supérieur, de pouvoir faire connaître le logiciel libre, éventuellement diffuser leurs recherches sous des licences libres. La revue de presse, vous la voyez peut-être si vous passez régulièrement sur le site de l'April. Elle est aussi diffusée sur le site donc de LinuxFR. Et c'est toutes les semaines un gros travail de scruter l'actualité autour du logiciel libre, et d'en faire un résumé en mettant en avant plusieurs articles parus dans la presse. Alors le responsable, il se cache là-bas parce qu'il est sous son chapeau. Merci. Et il s'active toutes les semaines à faire cette revue de presse, ce qui est un travail relativement ingrat, c'est comme les admins de scie, c'est-à-dire que tant que tout va bien, on lui dit jamais merci, et puis le jour où il y a un article qui nous plaît pas, on lui tape dessus. Merci. Le groupe de travail sensibilisation, c'est un groupe qui crée des documents pour faire connaître le logiciel libre et les formats ouverts. Donc il y a eu pas mal de choses faites cette année. Il y a eu des dépliants, des affiches contre ACTA. Il y a eu un dépliant sur les formats ouverts donc, que j'ai évoqué tout à l'heure. Il y a eu les cartes de vœux que vous avez vues. Il y a eu une affiche contre la vente liée, qui est très bien, avec un joli dessin, qui s'appelle « Les logiciels imposés inutiles et ça se paye ». On a fait un atelier de formation des conférenciers. C'est pour inciter les gens qui utilisent des logiciels libres à aller donner des conférences dans leur milieu professionnel, par exemple, ou dans le cadre d'associations, pour faire connaître le logiciel libre. Et donc, on essaye de les former, de leur donner quelques conseils. Et puis, on a, vous l'avez vu à l'entrée, on a fait une nouvelle version de notre enrouleur, ce qu'on appelle aussi un kakémono, qui permet de présenter l'April quand on tient des stands, par exemple. Le groupe SiteWeb est un groupe qui est un petit peu en déshérence, parce que le site web est un travail, c'est un peu comme l'admin 6, c'est un travail de fond qui ne se voit pas toujours, et c'est quand ça marche pas évidemment qu'on s'aperçoit que quelqu'un s'en occupait. Donc depuis quelques années, on a un certain nombre à s'en occuper, mais on s'en occupe de manière ponctuelle quand on a besoin de faire quelque chose, mais on est à la recherche d'un animateur qui voudrait un petit peu de manière régulière mettre à jour le site. Ça peut être ce qu'on appelle jardiner le wiki, c'est-à-dire passer régulièrement sur le wiki, vérifier qu'il n'y a pas de spam, que les gens ont correctement organisé les catégories, enfin ce genre de choses. Ça ne demande pas forcément beaucoup de temps, mais ça demande quelqu'un qui puisse venir régulièrement voir ce qui se passe. Traduction, c'est un groupe qui fait la traduction donc du français vers d'autres langues. Ça nous permet de traduire notamment nos actualités, nos communiqués de presse dans d'autres langues. Alors c'est essentiellement l'anglais, parce que c'est aujourd'hui la langue internationale, mais on a eu aussi l'occasion de traduire des documents en espagnol, par exemple. On a même eu la chance de traduire un document en arabe. Tout ça, évidemment, repose sur des bénévoles, c'est-à-dire des gens qui veulent bien prendre le temps de faire ces traductions puis de les relire. Donc voilà, si vous avez des connaissances en langue étrangère, nous sommes preneurs. La traduction de la philosophie GNU, c'est l'inverse, c'est-à-dire on reprend les pages principales du site gnu.org et on les retraduit en français. Donc le site gnu.org, c'est le site du mouvement GNU, et il y a notamment toute une partie de pages qu'on appelle philosophie, qui présente les grands principes du logiciel libre. Donc elles sont traduites dans tout un tas de langues, et ce groupe-là se charge de la partie de la traduction en français. Et comme les pages évoluent, elles sont remises à jour régulièrement. Il faut s'assurer que les traductions sont bien en phase avec la version actuelle. Donc c'est un travail aussi qui n'est pas forcément énorme, mais qui doit être fait de manière assez régulière. La transcription, animée par Magali, qui se cache je ne sais pas où. Là, tout en haut. Oui, tu es caché en haut. Donc l'idée, c'est pour des questions à la fois d'accessibilité et pour des questions de recherche par Internet, c'est de transcrire en format texte des vidéos ou des fichiers audio. Typiquement, ce sont essentiellement des conférences qui sont données, qu'on trouve intéressantes, et donc que l'on passe en mode texte. Alors, ça donne lieu à des sympathiques réunions où les gens se mettent autour d'une table et puis transcrivent ensemble. Et ça permet ensuite d'avoir sur le site de l'April donc la version complète en texte de certaines conférences. C'est utile pour les moteurs de recherche, donc comme je disais, ça permet de les retrouver plus facilement grâce à des mots-clés. Et puis ça permet aux gens qui peuvent avoir des problèmes, par exemple d'audition, de pouvoir lire le contenu de la vidéo. Alors, il reste encore quelques actions, et après je vous ennuie plus. On essaie de faire beaucoup de conférences et de participer à des événements. On essaie de faire. Alors, on peut pas aller dans tous les événements du libre en France parce qu'il y a beaucoup de petites associations de ce qu'on appelle les GUL qui organisent des événements locaux. Chaque fois que c'est possible, on essaie d'y aller. On peut pas toujours le faire, mais en tout cas, on essaie d'être présent dans tous les grands événements. Alors, typiquement, vous avez les Rencontres mondiales du logiciel libre qui se tiennent chaque année. On y a été, je crois, depuis des années à chaque fois. Il y a un salon d'informatique qui se tient à Paris tous les ans, où on essaye également d'être présent. On essaye d'aller donner des conférences partout où on nous propose d'aller. Et on essaye donc de faire connaître un petit peu les activités de l'association. Ça permet de valoriser ce que font les bénévoles. Et puis, c'est aussi un moyen de faire connaître tout simplement le logiciel libre. Parce que souvent, par exemple, quand on donne des conférences, ça m'est arrivé moi-même de donner des conférences devant des gens, par exemple, dans des médiathèques, où les gens ne connaissent pas le logiciel libre. Donc, vous arrivez en terre inconnue, comme dit l'émission. Et voilà, il faut essayer d'expliquer aux gens le béaba du logiciel libre. Et ça, c'est très formateur aussi pour les gens qui font les conférences, parce que vous avez du coup des questions des fois de béotiens qui vous remettent en cause et qui vous obligent à vous dire « Ah oui, tiens, comment je peux expliquer telle ou telle notion qui vous paraît évidente ?» parce qu'on le fait depuis longtemps. On a des partenariats avec pas mal de structures. Alors voilà, on a cité les principales. C'est important, le monde du libre est un monde qui fonctionne beaucoup par association, par groupement d'intérêts. Donc on essaye de garder des contacts avec le maximum de groupes possibles à partir du moment où on partage le même intérêt pour les logiciels libres. Et ça nous permet potentiellement de travailler ensemble sur des dossiers précis. On essaye de se faire entendre dans les médias et dans la presse. C'est pas toujours très simple parce que nos sujets intéressent plutôt la presse spécialisée. On n'a pas souvent accès aux médias grand public. Mais on essaye de le faire chaque fois qu'on peut. On a une liste de journalistes à qui on envoie donc des communiqués de presse, 20 communiqués cette année. Et puis, on a fait des zooms sur les activités de l'April sur une chaîne de télé sur le web qui s'appelle Intelligent TV. J'ai fini mon rapport moral. Alors, on va passer à la partie la plus intéressante, je pense, pour vous. C'est les questions. Les questions ou les remarques, hein, c'est-à-dire, que pensez-vous du rapport moral? Est-ce que vous avez besoin qu'on vous précise des choses? Est-ce que vous avez des questions à poser, des remarques à faire, même négatives? On prend tout. Alors, vous avez des micros, vous avez deux micros qui sont installés dans les allées. Donc, si vous voulez poser des questions, on va vous demander de vous lever jusqu'au micro, de manière à ce que votre question soit audible. Alors, qui se lance? Ah, Loïc. Il faut que tu ailles au micro, je suis désolé. Parce que, ou alors tu amènes... Oui, c'est bien. Et puis, en fait, surtout, l'année dernière, on avait un micro HF, puis il n'arrêtait pas de dysfonctionner, donc on s'est dit que le bon vieux câble, c'était pas mal.
Ah, est-ce que tu pourrais nous dire quelles ont été les relations de l'April avec d'autres associations qui militent pour le logiciel libre, pour les idéaux du libre, en France ou dans le monde?
Je suis navré.
Faut que je recommence.
J'ai été interrompu, voilà, et je n'ai pas entendu le début de ta question.
Est-ce que tu pourrais nous raconter quelles ont été les relations de l'April avec d'autres organisations qui essayent de faire la promotion, de faire avancer le logiciel libre ou prétendent le faire en France ou dans le monde?
Prétendent le faire. Oh là, oh la sale attaque. Alors, en fait, on essaye d'avoir des contacts avec le plus de gens possible. Parce qu'on partage, comme je disais, au moins un point commun. Alors des fois, ça peut être assez lointain. Par exemple, récemment, on a signé un appel à dénoncer le partenariat qui a eu lieu entre la BNF, la Bibliothèque Nationale de France, et des entreprises privées pour numériser un certain nombre de leurs contenus. Bon, a priori, on pourrait penser que ça ne nous concerne pas directement, parce que effectivement, ce que fait la Bibliothèque nationale de France n'est pas directement lié au logiciel libre. Mais toutefois, ça, il nous a semblé que la défense de ce patrimoine commun nous importait, et donc on a décidé de signer cet appel. Mais ça ne veut pas dire que après on est en accord avec tout ce que font les autres associations qui ont également signé ça. On peut avoir des points de désaccord, y compris assez forts. Alors, bon, tu veux que je cite des noms, c'est ça que je dénonce des gens ou...
Non. FSF, par exemple.
Alors, la FSF, oui, mais là, c'est trop facile. Alors, on a des liens, oui, on a des liens historiques avec la FSF, dont la Free Software Foundation. Ce sont les gens qui organisent le site GNU.org dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est une fondation qui est gérée par Richard Stallman. Je pense que la plupart d'entre vous en ont plus ou moins entendu parler. C'est ce monsieur qui a lancé le principe des logiciels libres dans les années 83-84. Donc on essaye d'être en coordination avec eux, essentiellement parce que eux lancent régulièrement des campagnes et on essaye de voir si certaines de ces campagnes peuvent nous convenir et est-ce qu'on peut les relayer. Alors par exemple, je vous ai parlé de la journée mondiale des DRM. Voilà, c'est typiquement une campagne qui est lancée par la FSF et qu'on reprend, nous, au niveau français. Ça peut être le cas aussi sur certains dossiers où la FSF met la problématique en avant et nous, on en profite pour faire une adaptation aux problèmes français. Mais c'est pas toujours le cas parce que la FSF rencontre aussi des problèmes spécifiques. Ils sont quand même plutôt centrés sur ce qui se passe aux États-Unis. Et donc, ils sont pas forcément directement concernés par les problèmes qu'on peut avoir en Europe, par exemple. Alors, pour vous donner une idée, il se trouve que hier, il y avait Richard Stallman qui était à Paris. On a eu l'occasion de manger une crêpe avec lui. Deux crêpes. Donc, évidemment, on a un peu discuté informatique parce qu'on peut pas s'en empêcher. Et il nous a soulevé plusieurs problèmes en cours. Il y a un problème qui, lui, le pénalise directement parce que quand il vient en France, il veut réserver des trains à la SNCF. Donc, il va sur Voyage SNCF. Et là, il peut pas y aller parce que il y a du JavaScript et que, par principe, il désactive le JavaScript pour être sûr de pas avoir du code non libre qui vienne sur son ordinateur. Et donc, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a tout un tas de sites comme ça, par exemple, qui ne fonctionnent pas à cause de systèmes... si jamais on veut désactiver le JavaScript. Alors, ça, évidemment, ça ne semble toucher que peu de gens, mais ça implique aussi tout un tas de problèmes d'interopérabilité, ça implique des problèmes d'accessibilité. Donc voilà, c'est un problème sur lequel on va essayer de réfléchir à voir qu'est-ce qu'on peut proposer aux gens qui font des sites web, notamment lorsque c'est des structures publiques comme la SNCF, pour essayer de proposer au moins une alternative qui n'oblige pas les gens à utiliser du JavaScript. Autre problème dont on a discuté, mais alors là, malheureusement, on n'a pas de solution à court terme, c'est les smartphones et puis c'est les tablettes. Parce que au jour d'aujourd'hui, de plus en plus de gens font de l'informatique, j'aurais tendance à dire, sans le savoir, avec leur téléphone portable. Et actuellement, on n'a pas à leur proposer une alternative 100% libre. Autant on peut essayer de faire un ordinateur portable ou un ordinateur de bureau 100% libre. Mais par contre, au niveau des smartphones, on n'y arrive pas. Et donc, ça pose tout un tas de problématiques, parce que même les fabricants de smartphones achètent tout fait des sous-ensembles électroniques. Et dans ces sous-ensembles électroniques, il y a du code. Et le code est secret, il est gardé par le fabricant. Et donc, évidemment, il n'est pas libre. Donc ça pose tout un tas de problèmes et même des téléphones qui fonctionnent avec le système Android ne sont pas libres. Donc voilà, donc ça c'est des problématiques qui vont se faire de plus en plus prégnantes dans le futur. Oui, bien sûr.
Avec plaisir. Alors en termes de... Parce que la question, même si elle était posée par un membre de la FSF France, honorable, je pense était plus large. Donc, pour répondre plus précisément à la question, il se trouve qu'on a un certain nombre de membres, notamment de personnes morales, qui sont adhérents à l'April. Certains sont là et représentent leur association. Je pense à Ludovic pour Vidéolan, avec qui on collabore régulièrement sur des problématiques juridiques avec grand plaisir. On est aussi, on a parmi nos membres Wikimedia France, avec qui on discute aussi très régulièrement. Et il me semble que Lionel, tu es allé représenter l'April à leur AG. Et on fera la même chose cette année pour l'AG qui aura lieu à Toulouse.
Ah oui, dans quelques jours.
On a parlé de la FPH avec qui on collabore beaucoup de manière, un partenariat dynamique comme on appelle ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément d'adhésion mais on a beaucoup de plaisir à travailler ensemble. La FSF, aussi bien au niveau monde qu'au niveau France, on a pas mal de collaborations. Tu as parlé tout à l'heure du groupe de travail racketticiel de la FUL, et effectivement, on travaille beaucoup avec eux. Pas mal autour des clusters d'entreprises, je pense à Libertis, je pense à Alliance Libre, au CNLL, effectivement. J'en oublie, parce que les clusters, je suis pas celui qui les pratique le plus au sein du CA. Parinux, avec lequel on a aussi, par la proximité des membres parisiens de l'April. Et puis, on invite des gens à l'AG, et c'est toujours un plaisir d'avoir des membres extérieurs qui viennent. Donc, je pense à François Elly, qui représente l'Adulact, qu'on a beaucoup de plaisir à accueillir aujourd'hui, et Jean-Pierre Archambault, que j'ai vu tout à l'heure.
Il est apparu, mais il a redisparu.
D'accord. Et bah, de l'EPI, avec qui on collabore aussi sur des questions d'éducation, et c'est toujours un plaisir de discuter avec ces structures-là. Donc voilà, j'ai dû oublier encore des gens, parce que j'y réfléchis que 5 minutes, le temps que Lionel... Framasoft, évidemment, la quadrature du net. Framasoft, on a même des amitiés juridiques ensemble, donc c'est extraordinaire. La quadrature, où on fait pas mal de choses ensemble, en plus d'avoir un honorable membre qui fait aussi partie de notre CA. Et voilà. Donc, je n'oublie, parce que c'est vraiment, on a cette habitude de collaboration. Et tout est dans le rapport moral, effectivement. Donc, pardonnez-moi pour tous les oublis
par avance.
Par avance, exactement.
Après, je vais prendre ta question juste après. Après, on a aussi des structures avec lesquelles, des fois, on a des points de désaccord. Et ça nous arrive, et c'est légitime. On essaye de les traiter, c'est-à-dire on essaye de voir comment on peut dialoguer ensemble. Mais c'est vrai que le monde du livre est très vaste. Et donc, il y a tout un tas de gens qui ont des objectifs qui ne sont pas forcément ceux de l'April. Donc, on peut être amené, comme je disais, c'est important de comprendre qu'on peut être amené à travailler avec une association sur un point précis. Et puis après, les associations continuent à vivre leur vie séparément. Ce n'est pas une obligation de partenariat systématique, mais des fois on est bien content de trouver de l'aide dans d'autres associations sur des points précis. Alors, il y a une question là, si tu veux te rapprocher du micro s'il te plaît.
Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour.
Une question courte avec une question fermée. Est-ce que Sun fait toujours partie des adhérents de l'April?
Non.
Enfin, Oracle.
Oracle. Ah, il faut que je me tourne vers mon... Non. D'accord, donc la réponse est non.
Merci.
Oui.
Alors, comme disait Lionel, on n'a pas trop de problèmes à collaborer avec des gens avec lesquels on ne partage pas toutes les idées. Avec Oracle, on avait des clairs différents sur les brevets logiciels. Ils sont jamais Oracle et Sun, hein, la même chose. Parce que, en fait, Sun a adhéré en 2005, 2004 ou 2005, si mes souvenirs sont bons, suite à notre travail qu'ils avaient apprécié sur la DAFSI. Et puis, ils se sont fait racheter par Oracle. Et Oracle a continué à payer sa cotisation, notamment parce qu'on travaillait ensemble sur les dossiers liés au format ouvert au niveau européen. Et donc, du coup, ils avaient envie de valoriser ça. Et il se trouve qu'on a continué à travailler sur les brevets comme on le fait depuis un petit bout de temps, et qu'a priori, ça leur plaît pas trop ce qu'on fait. Et donc, ils ont décidé de ne pas renouveler leur cotisation. Voilà, pour nous, il n'y a pas trop de problème. C'est aussi, je pense, une belle démonstration que notre modèle de gouvernance, qui est d'abord que ce soit vous, adhérents, qui participiez aux prises de décision globales sur l'année pendant l'AG, Et le fait qu'on ne soit pas dépendant économiquement d'une des entreprises ou d'un acteur particulier nous permet d'avoir une liberté de parole et des fois accepter de l'argent de personnages dont on ne partage pas forcément toutes les idées et de pouvoir très facilement continuer à défendre nos fondamentaux et éventuellement perdre des adhérents à cause de ça. Donc ce qui nous importe, c'est que la majorité de nos adhérents soutiennent l'activité de l'April. Et si on perd Oracle parce qu'on a fait un bon travail sur les brevets logiciels, eh bien, on trouve ça plutôt bien.
Il faut le dire, parce que c'est important. Quand on travaille au niveau du CA pour prendre les principales orientations de l'association, on ne se pose pas la question de savoir si ça va plaire aux membres entreprises ou pas. Ça n'est même jamais évoqué. C'est-à-dire qu'ils soutiennent l'April en tant qu'association et l'April fait la promotion et la défense du logiciel libre. Voilà. Et donc, quand on décide de s'attaquer à tel ou tel problème, par exemple les marchés publics, ce n'est pas pour faire plaisir à telle ou telle entreprise. C'est parce que ça nous semble être un point d'entrée, par exemple dans les administrations. Et ça, c'est important de comprendre qu'on essaye, notamment en limitant la quantité qu'une entreprise peut nous verser, on essaye de limiter l'influence de ces entreprises. On est très content de prendre leur argent, il n'y a pas de doute. On les remercie, mais ça veut dire qu'ensuite, on prend les décisions qui nous semblent importantes pour le logiciel libre, point barre. Je ne sais pas si ça répond bien à ta question. Oui, on a été un peu plus large. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vix, t'as levé la main tout à l'heure, c'est... Non? Ah, zut. Ah, vas-y, oui.
Au niveau des actions de groupe, donc tu as dit que c'était déjà disponible aux États-Unis. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'il y a comme choses qui ont été faites là-bas, notamment sur les principes de racketticiel. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été faites aux États-Unis et pas en France? Est-ce qu'on pouvait imaginer faire déjà des choses, quoi?
Alors, je ne suis pas très pertinent pour parler de ça parce que je n'ai pas de maîtrise juridique très bonne. Hein, ce n'est pas mon domaine d'expertise. Jeanne va peut-être pouvoir nous en dire deux mots. L'idée de l'action de groupe, c'est vraiment qu'on puisse agir au nom de tous les gens qui ont été lésés. Donc ça veut dire qu'il faut que les gens considèrent qu'ils étaient lésés. Aux États-Unis, par exemple, je ne sais pas s'il y a eu des actions de groupe contre la vente liée, mais peut-être parce que tout le monde est très content d'avoir Microsoft, finalement.
Et peut-être que la loi n'est pas aussi avantageuse pour les...
Voilà, c'est ça. C'est surtout qu'aux États-Unis, la loi n'est pas la même qu'en France, notamment sur les questions de vente liée, vente forcée. Et donc, même si l'action de groupe existe, il n'y a pas de texte de loi qui permette de faire valoir ses droits de la même manière qu'on a les textes français qui existent. Donc la question ne se pose pas vraiment dans ces termes-là aux États-Unis, pour autant que je sache.
Et est-ce que tu peux nous rappeler en deux mots quelle est la situation en France? Parce que pour l'instant, on n'a pas d'action de groupe.
Alors, actuellement, on a une forme d'action de groupe qui est introduite il y a quelques années avec la possibilité pour les associations de consommateurs au moins se joindre à une plainte, ce qu'on n'avait même pas avant. Donc ça a été la première forme d'action de groupe qui s'est mise en place en France. Elle est encore très limitée aujourd'hui. Et donc du coup, c'est un projet du gouvernement, un projet de loi qui est en train d'être mis en place pour justement développer l'action de groupe, donc la possibilité de se regrouper en tant que consommateur pour pouvoir faire valoir un litige d'une valeur pas très importante. Donc aujourd'hui, les questions qui vont se poser, c'est de savoir s'il faut être une association de consommateurs reconnue, agréée, pour pouvoir organiser ce type d'action, qui pourra l'organiser, comment ça va se passer en termes de procédure. Donc il va y avoir beaucoup de débats et des choses assez intéressantes qui vont se passer là-dessus. Mais c'est un projet du gouvernement qui devrait probablement avancer en 2013.
Même si un certain nombre d'entreprises sont contre. Si
oui, après, un certain nombre d'entreprises, enfin, il y a des inquiétudes qui sont fortes, notamment vis-à-vis du modèle américain. On voit effectivement des actions avec des réparations très élevées. Mais parce que les réparations, enfin, ce ne sera pas exactement le même modèle, dans la mesure où aux États-Unis, il y a tout ce qui est préjudice moral, donc tout ce qui est conséquence. En gros, en France, l'idée, c'est qu'on indemnisera que le préjudice pour chacun des consommateurs. Donc ça peut représenter de grosses sommes, mais ça restera plus limité qu'aux États-Unis. Il peut y avoir l'aspect préjudice moral, gêne subie, etc., qui est aussi dédommagé, et ce qui fait qu'on arrive à des sommes assez colossales, ce qui ne sera pas le cas en France, donc ce qui limitera de fait quand même les risques. Pas tant la responsabilité que les risques causés pour les entreprises. Parce que autant qu'elles doivent indemniser l'ensemble du préjudice subi se comprend, autant ça peut être plus délicat quand on part sur des questions notamment de préjudice moral ou autre qui peuvent représenter des montants très élevés et mettre en danger un certain nombre d'entreprises.
Est-ce que ça répond à ta question? Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Allons-y, n'ayez pas peur. Oui.
Bonjour, Nicolas Vendrimont. En fait, je suis là en tant que représentant de l'ENSTA ParisTech.
D'accord.
Donc, qui est une grande école adhérente, ouais, de l'April.
Enchanté.
Je voudrais savoir, enfin, si je comprends bien, l'ENSTA est la seule école adhérente de l'April. Est-ce qu'il y a du travail qui est fait vers les grandes écoles, vers les écoles d'ingénieurs, pour qu'il y ait plus de sensibilisation à ces problèmes de logiciels libres, d'interopérabilité dans les cursus? Nous, je sais qu'on travaille, là-dessus pour faire en sorte de montrer qu'il n'y a pas que Windows dans la vie, quoi.
Oui.
Est-ce qu'il y a d'autres...
Alors, je vais peut-être demander l'aide de Rémi. Non ? Ou toi, tu peux répondre, oui ? Ben, je veux bien, parce que je sais qu'on a préparé quelque chose qui est en cours au niveau du groupe éducation, où justement on essaye de... On a déjà une page sur le site de l'April qui recense les formations, qui propose des formations spécifiques pour le logiciel libre. Mais on voudrait bien aller un cran plus loin, c'est-à-dire expliquer effectivement l'intérêt qu'il peut y avoir à enseigner avec des logiciels libres, c'est-à-dire déjà les utiliser au sein d'école, mais expliquer pourquoi on les utilise, c'est-à-dire quel est l'intérêt, quoi. Donc, Sébastien, si tu veux, oui, compléter.
Donc, je vais laisser la parole à Rémi pour cette action de fonds, mais juste une précision, au-delà de cette action de fonds, un certain nombre de membres de l'April, par exemple, moi et Rémi, intervenons dans des écoles d'ingénieurs, à l'université, dans des formations techniques ou des formations, par exemple, juridiques, pour expliquer ce qu'est le logiciel libre et comment fonctionnent les licences, comment fonctionnent les modèles économiques, ce genre de choses.
Voilà. Maintenant. Alors, c'était pour une question sur...
Oui, on a une question sur ce que fait l'April au niveau des écoles, notamment des écoles d'ingénieurs, des formations universitaires.
Alors, au sein du groupe éducation, il y a un sous-groupe enseignement supérieur, avec une activité, c'est vrai, ces derniers temps un petit peu plus calme, on va dire. Donc là encore, on recherche et attend des contributeurs. Au niveau de l'April, par contre, de façon plus méta, on va dire, on sert un petit peu de facilitateur pour mettre en relation donc des développeurs de logiciels, des communautés de développeurs avec des formations du supérieur. Très récemment, on a mis en contact donc le département d'informatique de l'IUT de Blagnac, avec le projet Upstream qui consiste à former des futurs développeurs pour ici le logiciel, c'est OpenStack en l'occurrence. Donc c'est plein de petites mises en relation comme cela, mais c'est vrai qu'on aimerait bien avoir un sous-groupe un petit peu plus actif au niveau enseignement supérieur. Mais il y a quand même de l'action de fait, hein. Il y a des projets de cursus de formation au logiciel libre à destination d'universités ou de grandes écoles qui sont disponibles sur le wiki, qui ont été rédigés de façon collaborative par des fois des enseignants ou des ingénieurs de recherche en université. Alors je ne sais pas si ça répond bien à la question puisque je ne l'ai pas entendu en fait, donc Lionel me l'a traduite.
Ah oui, pardon, excuse-moi. Je vais juste compléter là-dessus. En fait, on essaye de se rendre disponible, comme disait Sébastien, pour aller donner des conférences dans les grandes écoles ou dans les universités. On en a fait, plusieurs choses. On en a notamment été reçu plusieurs d'entre nous à Saint-Denis. C'est Paris 8 de mémoire, si je ne me trompe pas. Et on a des gens qui nous ont demandé de venir intervenir justement sur le logiciel libre. Et chaque fois qu'on peut le faire, on essaye de le faire. Donc si ici dans la salle il y a des gens, voilà, qui ont des contacts dans des écoles, si toi-même au niveau de ton école tu veux organiser une conférence ou un cycle de conférences, ça peut être aussi le moyen de montrer à vos responsables que bah, c'est un sujet qui vous intéresse, quoi. Hein, donc, il ne faut pas hésiter à nous le proposer. On essaiera de se rendre disponible autant que possible. Est-ce que ça répond à ta question ?
Parfaitement, oui. Merci.
Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ah, oui, vas-y.
Je vais commencer par un ajout sur le thème précédent. C'est de dire que les entreprises qui font du logiciel libre, il ne faut pas hésiter à voir avec son comptable ou la personne qui suit ça, pour que les sommes versées au titre de la formation, de la professionnalisation, soient données à destination, avec une mention de commentaire, des universités qui mettent en place des formations sur le logiciel libre. Donc, par exemple, moi, la société dont je fais partie, Skill, on donne au master donc, I2L, en l'occurrence, c'est l'université du littoral Côte d'Opale à Boulogne, mais on précise bien que c'est donné à destination particulièrement du master. Sur une petite société, c'est pas grand-chose, mais dès qu'on commence à être quelques-uns, ça peut monter à 500 000 euros, et c'est toujours des sommes bienvenues pour les facultés en question.
Et tu as le droit de préciser que tu veux que ça soit attribué à un type de formation.
C'est un commentaire. C'est-à-dire, eux, ils en font ce qu'ils veulent. C'est donné clairement à l'entité qui porte la formation. Mais le commentaire permet, pour les personnes qui reçoivent l'argent, de se dire c'est donné parce que c'est telle formation précisément. Et ça permet d'interpeller notamment les conseils d'administration qui peuvent parfois avoir envie de sauter ces formations qui peuvent parfois être mal comprises. Sinon, la question que j'avais portait sur l'analyse qu'avait le conseil d'administration de l'érosion des adhésions, d'approfondir un petit peu le sujet qui avait été évoqué rapidement dans ses conséquences, mais pas dans ses causes.
Oui, alors, les causes, j'aimerais bien les savoir. En fait, c'est la réponse la plus honnête que je peux te faire. On a évoqué, quand on pose des questions à nos adhérents, on a des choses qui remontent. J'en ai parlé très rapidement tout à l'heure, je ne sais pas si tu étais déjà là. Il y a des gens qui nous considèrent comme une association plutôt parisienne. Alors c'est vrai que nos locaux sont à Paris et nos permanents travaillent à Paris. Ça s'est fait historiquement parce que l'association April s'est montée à l'université de Paris 8 à Saint-Denis. Mais depuis, on a essayé d'avoir aussi bien au niveau du CA que de nos membres une répartition la plus large possible. Comme je vous disais, une majorité de membres de l'association ne sont pas en région parisienne. On peut avoir des causes. Alors, dans les commentaires qu'on avait lors de l'élection, il y a des gens qui nous considéraient comme des Parisiens rive gauche. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Il se trouve que, bon, quand on regarde, en fait, pas de chance, au CA, les membres de l'association qui habitent à Paris sont rive droite. Mais bon, voilà. Je dis ça en blaguant, mais ça veut dire qu'il peut y avoir des ressentis pour les gens qui ne viennent pas nous voir. Ou qui nous ont jamais rencontrés, même des fois physiquement, il peut y avoir un ressenti parce que la seule chose qu'ils voient de l'association, c'est des mails, c'est le site web, et ça peut peut-être donner une impression d'association très peut-être militante, rentre dedans, je sais pas quoi, ce qu'on essaye d'être aussi, mais ça veut dire que ces gens-là ne perçoivent pas forcément tout le travail qui est fait dans les groupes de travail, et comme je l'ai dit, c'est une énorme partie de l'association. C'est fait que par des bénévoles, même s'ils peuvent avoir ponctuellement le soutien d'un permanent. Et c'est du travail qui est mené depuis maintenant 15 ans. Donc, il faut bien prendre en compte tout ça. Et je pense que ce que ça veut dire, mais peut-être que tu peux nous aider, maintenant que tu n'es plus au CA, à mieux le comprendre, c'est que peut-être quand on est au CA, on n'arrive pas à se rendre compte assez bien de l'image qu'on transmet. Hein. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est comme je vous ai dit, on a fait deux campagnes d'adhésion assez soutenues dans les années, alors je rappelle, ça doit être 2007-2008 de mémoire, et on a fait des campagnes très actives. C'est-à-dire pendant des mois, on s'est démené à essayer de trouver de nouveaux adhérents. Et puis, une fois que ces campagnes passées, on a commencé à travailler sur les dossiers. Et c'est vrai que peut-être il y a une part de notre faute. Malgré le groupe animation dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui essaye de motiver les adhérents à participer, peut-être que y a un certain nombre de gens dont on ne s'est pas assez occupé, on n'a peut-être pas répondu correctement à ce qu'ils attendaient. Et puis, dans les gens qui nous quittent, on leur demande, quand un adhérent part, on lui demande ce qu'il veut nous dire, pourquoi il part. Effectivement, de temps en temps, il y a des gens qui nous disent clairement « je me suis trompé de boutique ». C'est-à-dire, j'ai adhéré à l'April, mais en fait, l'April, c'est pas le truc qui m'intéressait. Ça m'intéresse pas. J'ai d'autres priorités. Et donc, je vais voir ailleurs. Maintenant, c'est quelques-unes des choses que moi, j'ai pu voir. Mais encore une fois, faut pas hésiter à me remonter les problèmes. Sébastien, si tu veux. Mais il faut que tu prennes un micro, alors, s'il te plaît. Sébastien est notre ancien secrétaire. Il l'a été pendant plusieurs années, je ne sais pas combien, mais des années. Donc, tu as une vue assez large de la situation.
Tu étais né déjà ? Je ne sais plus. Oui, j'ai été secrétaire de 2003 à 2010.
Wow.
Et voilà, je suis encore pour quelques instants vice-président. Sur les raisons, elles sont effectivement multiples. Il est clair que l'April est peut-être parfois en défaillance de communication, mais il y a d'autres éléments externes. Typiquement, il y a déjà des adhésions coup de cœur que nous avons beaucoup de mal à entretenir. Les gens vont réagir à une actualité, à une action d'April, ils vont adhérer. Puis un an après, s'il n'y a pas une nouvelle action qui redéclenche l'envie de renouveler, ils ne renouvellent pas, tout simplement. Ensuite, il y a réellement, aussi bien au niveau des personnes morales que des personnes physiques, la crise. Nous avons beaucoup de mails sur la liste secrétaire de gens qui nous disent « Désolé, je dois faire des choix. » Voilà, cette année, ça ne sera pas l'April. Ça, c'est une réalité. Et ensuite, effectivement, pour ce qui est de la communication, il y a quelques mois, un adhérent a écrit à la liste secrétaire ou à la liste CA, je ne sais plus, pour dire oui, sur Toulouse, de l'April, vous ne faites rien, donc je ne vais pas vous apporter mon soutien. Et ça m'a fait tiquer sur le coup. Parce qu'il se trouve que Rémi est très actif sur Toulouse, David Chemouille est très actif sur Toulouse, moi je suis très actif sur Toulouse, pour ne parler que de trois personnes qui sont membres du CA, et je ne vous parle donc pas des adhérents et des initiatives que j'ignore. Mais le seul problème que j'ai, c'est que la plupart des actions que j'entreprends, je ne peux pas vraiment en parler. Soit parce qu'il n'y a pas vraiment matière à en parler, soit parce que les entreprises ou les institutions avec lesquelles je discute souhaitent la discrétion, même s'il n'y a rien de confidentiel. Quand une entreprise est en train de réfléchir sur sa position par rapport au libre, eh bien, pour nous, il est important de l'éclairer quand c'est un grand groupe, parce que ce grand groupe est prescripteur. Si un grand groupe industriel décide de favoriser le libre, tous ses sous-traitants vont suivre. Donc c'est très important d'être là, de savoir l'éclairer, de savoir l'accompagner au moment où il a cette réflexion. Mais derrière, ce grand groupe ne tient pas forcément à ce que vous en parliez. Et au final, qu'est-ce qui se passe ? Les gens ont l'impression que l'April ne fait rien. Mais l'April fait. Voilà. Et ça vaut pour des grandes industries, ça vaut pour des collectivités, pour des institutions publiques. Voilà.
Et c'est d'autant plus étonnant que tu as quand même réussi à obtenir l'adhésion de la ville de Toulouse.
Oui, enfin, la visite de Frédéric Couchet
a aidé aussi.
A beaucoup aidé les choses. Mais c'est vrai que, par exemple, oui, à Toulouse est membre de l'April. Nous sommes en relation aussi, enfin, la ville de Toulouse est très sensibilisée. Elle est en relation aussi avec OpenStreetMap. Je trouve que je suis aussi membre d'OpenStreetMap. Enfin, voilà. Donc, il se passe beaucoup de choses à Toulouse autour du libre. Il y a un LUG local très actif qui mène une action de très grande qualité envers tous les publics. J'aimerais que toutes les villes de France aient un LUG à la hauteur de Tout Libre. Je dis ça, je ne suis pas actif au sein de Tout Libre. Je n'ai pas le temps, je les soutiens juste financièrement. Mais ils font vraiment un travail remarquable. Et du coup, effectivement, en regard, ça éclipse peut-être l'activité de l'April. Voilà. Mais si vous avez des idées sur la façon dont nous pourrions valoriser toutes ces actions, plus ou moins ponctuelles ou sur la durée, sans pour autant, révéler des choses que des entreprises ou des institutions ne souhaitent pas révéler, je suis preneur. Mais, voilà.
Ok, merci Sébastien. Est-ce que ça répond à peu près à ta question ? N'hésite pas à nous relancer là-dessus. Alors, est-ce qu'il y a d'autres, questions ? Oui, si tu veux prendre le micro.
Bonjour.
Bonjour.
Moi, je voudrais savoir si des démarches pourrait être entreprise pour que l'April soit reconnue d'utilité publique, parce que c'est indéniable.
Vas-y, c'est... t'occupe pas d'eux.
Merci. J'adore faire rire le CA, d'autant quand il est, surtout quand il est bien représenté par la gente féminine aussi, et ça fait plaisir aussi. Oui, parce que bon, c'est indéniable que les actions de l'April servent la population, servent nos libertés fondamentales. Donc, je pense que on parlait de crise tout à l'heure. On pourrait aussi parler de fuite des capitaux. Il y a des gens qui aiment bien donner une association pour dire, bah voilà, ça, je vais pas le donner aux impôts parce que je vois pas forcément l'action de ma participation sur les impôts. Je préfère donner à l'April et que ça serve à quelque chose.
Alors, ils ont rigolé, là, à ta droite, parce que on a passé une partie de la matinée à parler de ça, en fait. Donc, c'est un sujet du moment. En fait, ce qui s'est passé, c'est que on avait demandé... Alors, il y a deux notions. Il y a l'intérêt public. Jeanne, tu m'arrêtes si je me trompe. Et il y a l'utilité... Il y a l'intérêt général et l'utilité publique. En deux mots, l'intérêt général, donc, ça permet de... à ce que les gens déduisent 66% de mémoire de ce qu'ils donnent. Et donc, évidemment, si vous donnez 10 euros, en fait, vous n'en payez que 3. Bon, voilà. Donc ça, c'est intéressant. On a demandé à obtenir ça. Ça s'appelle le rescrit fiscal. Et ça nous a été refusé. Alors, ça nous a été refusé pour parce que les gens ont appliqué la directive au pied de la lettre. Et donc, on ne rentrait pas parfaitement dans les cases. Et l'utilité publique, c'est plus compliqué, mais c'est aussi plus intéressant. Et en fait, on va repartir dans la démarche de demander les deux. D'accord ? L'un puis l'autre. Et on va voir celui qu'on obtient. Et Jeanne va te préciser les détails, si tu veux.
Oui, effectivement. Je crois que tu as bien résumé les questions. Oui, enfin, c'était... Qu'est-ce qu'il y a forêt ? Ben en fait, pour l'intérêt général, donc il faut faire une demande à l'administration fiscale et on ne rentre pas exactement dans la définition d'intérêt général parce qu'elle est définie par la loi de manière restrictive. Et typiquement, ces associations d'intérêt éducatif, culturel, etc. Et on ne rentre pas exactement dans les types de cases parce que ce n'est pas force uniquement ce que fait l'April. L'April a un cœur de travail qui peut être parfois un peu différent, etc. Après, en 2007, c'est vrai qu'elle nous avait été refusée. On n'avait pas vraiment eu de soutien politique ou autre aussi pour l'obtenir. Donc là, avec l'alternance, on va essayer de le redemander. On va voir ce que ça va donner. Et après, effectivement, on va aussi travailler sur l'utilité publique, qui est une décision qui est beaucoup plus politique, mais qui est aussi plus lourde, beaucoup plus lourde à obtenir. On verra bien ce que ça va donner. J'espère qu'on aura des choses plus positives d'ici un an. Mais oui, c'était prévu qu'on s'en occupe cette année et on s'y attaque. Et si d'ailleurs, si vous connaissez des gens qui sont spécialisés là-dedans ou qui sont prêts à, on sait jamais, à se renseigner, à nous conseiller là-dessus, n'hésitez pas à nous faire signer.
Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais essayer de répondre rapidement aux questions qui nous ont été posées sur l'outil de vote, puisque les gens pouvaient laisser des commentaires. Alors, tu veux lire les questions ?
Oui.
Bon, la première, on vient d'y répondre.
Oui, en fait, je vais filtrer parce qu'il y en a qu'on a répondu. Alors,
la première question, typiquement, c'était sur le nombre pourquoi il y avait moins d'adhérents. Donc,
donc ça, on a répondu.
Ah oui,
ça, on a...
Ah oui, ouais. Tu as le droit à l'autre sucette, toi. D'accord. Tiens. Ouais, où il y a des sucettes. Elle veut pas. Elle est coincée. Oui, parce qu'ils les mettent bien en place et voilà, pour pas que ça tombe.
Donc là, on a une question qui sera plutôt pour Jeanne, je pense. A-t-on des résultats contre les ventiliers forcés ?
J'en ai parlé rapidement tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a des résultats très positifs à partir du moment où les gens font l'effort d'aller en justice, c'est-à-dire de se rendre devant un juge de proximité et d'exiger le remboursement, quand ils ne l'obtiennent pas à l'AMIA, parce que le premier truc à faire, c'est de demander aux fabricants de vous rembourser des logiciels, mais la plupart du temps, ils refusent, ou alors ils acceptent, mais avec des conditions trop compliquées, c'est-à-dire il faut renvoyer toute la machine pendant 3 semaines, enfin des choses comme ça. Donc vous pouvez vous rapprocher d'un juge de proximité, mais le problème, c'est que les gens qui ont essayé de faire ça, on va dire, tout seuls, un certain nombre ont pu ne pas avoir des jugements favorables. Donc si vous souhaitez le faire, il faut le faire avec l'aide d'un avocat et au minimum, en tout cas, avec l'aide du groupe racketticiel de la FUL, qui a publié tout un document de synthèse sur comment faire pour se faire rembourser les logiciels indûment achetés. Donc ça, il y a des résultats. Il y a des résultats en justice, j'en ai parlé. Ils sont renotés dans le rapport moral. Il y a des résultats très favorables. Il y a vraiment des résultats, mais il faut que les gens aient le courage d'aller jusqu'au procès. Et effectivement, la plupart des gens, même s'ils ne veulent pas des logiciels qui leur sont imposés, ne vont pas faire cette démarche par manque de temps, par manque de volonté.
Alors l'autre question qui a été partiellement répondue, c'était la question de la relation avec les diverses associations. La personne citait notamment la FUL, l'AFDEL, Syntec Numérique. Donc je peux faire une précision de réponse rapide. La FUL, on travaille avec eux, notamment sur la vente liée, donc ça c'est détaillé dans le rapport moral. L'AFDEL, que je connaisse, on n'a pas de rapport avec eux. L'AFDEL, il y a quelques années, était soutien au brevet logiciel, nous on est contre, donc on est plutôt en relation d'opposition. Je ne sais pas si leur position a changé, la nôtre non. Et le Syntec, on n'a pas beaucoup de relations avec eux. On a été invité il n'y a pas longtemps aux états généraux de l'open source. Je crois que c'était fait par le Syntec. Et je crois que récemment, c'est tout ce qu'il y a eu. Donc voilà. Et c'est tout pour les questions.
D'accord. On peut préciser cette notion. Oui, merci. On peut préciser cette notion quand même d'open source, parce qu'on est là pour se faire plaisir aussi. On a un problème parce que beaucoup de gens utilisent en France maintenant le terme open source, qui est un terme anglo-saxon évidemment, et qui est utilisé souvent, de plus en plus souvent, en contradiction avec la notion de logiciel libre. C'est-à-dire que les gens disent on fait de l'open source, alors qu'en bon français ils pourraient très bien dire on fait du logiciel libre. Et en fait derrière il y a malheureusement chez certaines personnes une perception de l'open source comme étant quelque chose de purement technique qui ne concerne que les informaticiens et surtout qui ne parle pas de la liberté des utilisateurs parce que ça peut gêner certaines entreprises notamment de penser que leurs utilisateurs peuvent se barrer chez les concurrents, je ne sais pas, choses comme ça. Mais il y a un point de vue encore plus fondamental, c'est qu'en fait on voit qu'il y a une opposition qui se crée entre open source et logiciel libre sur le plan purement de l'éthique. C'est-à-dire que quand l'April défend le logiciel libre, c'est pour défendre une informatique qui n'est pas nuisible à ses utilisateurs. Alors c'est très prétentieux de dire ça comme ça, hein, mais ça veut dire qu'on place l'utilisateur devant et que les intérêts des informaticiens, des développeurs, des entreprises passent derrière. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas de développeurs, au contraire, on veut des entreprises qui gagnent bien leur vie, si possible, avec du logiciel libre, mais à partir du moment où elles le font en respectant les règles du logiciel libre. Donc c'est l'utilisateur qui doit primer. Et malheureusement, on voit se développer chez certaines entreprises un discours qui consiste à mettre de l'open source en avant parce que c'est un espèce de buzzword, c'est un mot à la mode, mais derrière, elles n'ont aucune envie de faire vraiment du logiciel libre, c'est-à-dire de donner priorité aux intérêts de l'utilisateur. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit apparaître et on voit des événements qui se montent avec le terme open source, alors qu'on est en France et qui pourrait très bien appeler ça logiciel libre. Donc chaque fois que ça arrive, on se fait un malin plaisir à venir leur dire que bon, ça nous va pas. Et voilà, on espère que ça permet de calmer un peu le jeu à ce niveau-là et de s'assurer que c'est bien le logiciel libre dont on parle et pas d'open source, parce que ça nous va pas. Alors, on a répondu, je pense, à peu près à toutes les questions, à moins que depuis, quelqu'un se sente motivé. Non ? Bon, on va s'arrêter là pour la présentation. On va passer au vote, si vous voulez bien. Le moment important. On va vous demander de... Alors, ceux qui ont déjà voté, En ligne, hein, par Internet. Donc vos votes ont déjà été pris en compte, bien sûr. Alors, on va demander le passage au vote pour ceux qui n'ont pas encore voté en ligne, donc ceux à qui on a donné des petits papiers. Donc vous avez trois sortes de petits papiers. Donc, alors, Aurélia, c'est toi qui as les comptes finaux. D'accord, génial. Alors, nous avons trois papiers. Alors, on va vous demander de faire attention. Vous ne faites pas comme les gars de l'opposition l'autre jour, qui, au beau milieu de la nuit, ont voté pour un amendement ou contre un amendement qu'ils avaient proposé. Enfin, je ne sais plus ce qui s'est passé, mais ils s'étaient tous gourés de boutons. Bon, il faut dire, il devait être 5 heures du mat. Hein. Bon, on peut comprendre que... Voilà. Mais enfin... Voilà, c'est ça. L'opposition de l'UMP avait déposé un amendement et personne de l'UMP a voté pour. C'est bête, mais... Donc, on vous demande de faire attention à la couleur des papiers. Alors, on est désolé, c'est pas tout à fait accessibilité parce que les daltoniens, bah, c'est mort, hein, mais... Ça dépend lesquels. Alors, on va vous demander de voter pour le... Alors, on va vous demander de voter abstention, contre ou pour le rapport moral. Alors, les gens qui s'abstiennent, lève un papier bleu, s'il vous plaît. Donc, qui s'abstient sur le rapport moral ? J'en ai un, là-haut. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Bien, l'abstention, c'est fait. Ceux qui sont contre, lève un papier rose ou rouge. Qui est contre ? Personne. OK. Merci. Ceux qui sont pour lèvent un papier vert. Voilà. Alors, voilà, ceux qui, comme moi, ont la chance d'être président, j'en ai plein. Eh oui, c'est la démocratie façon April. J'ai 8 votes. Bon, alors, moi, j'ai voté en ligne, hein, à titre personnel, donc ça, c'est les votes qui m'ont été transmis. C'est les procurations. Donc, il y en a 8. Est-ce que vous avez... Alors, oui, on laisse les mains levées, s'il vous plaît, le temps que les gens comptent. C'est bon ? C'est bon ? Voilà. Si vous pouvez baisser, merci. Donc, on va attendre le résultat, mais j'ai assez peu d'inquiétude. Alors après, on va faire une petite pause. Parce que après on va vous parler de la partie vraiment importante, c'est l'argent, et donc on va vous présenter le bilan financier. Donc on va faire une petite pause. Là, il est 4h, il va être 4h10. Oui, on communique les résultats, mais je dis après on va faire la pause. On fait une pause pas trop longue et on repart dans la foulée histoire de tenir les horaires. Donc nous avons abstention. Alors, dans les membres à jour, on en a 2581. Donc, c'est les membres à jour de cotisation, donc qui ont le droit de voter. Le quorum est à 775 votants. Nous avons en vote exprimé, donc, 36 abstentions, 5 non et 1022 oui. Donc, le rapport moral est adopté. Merci. Merci beaucoup, ça nous fait bien plaisir. Donc on vous propose 10 minutes de pause, pas plus, pipi, la clope, et on s'y remet. Merci. Alors, si vous voulez bien vous asseoir, François va vous présenter le bilan financier de l'association.
Donc normalement, il y a deux documents que vous avez dû recevoir. Il y a d'un côté une feuille simple qui est avec le bilan financier et le compte de résultat pour l'exercice 2012. Et le deuxième document, c'est le commentaire qui donne un peu l'explication globale de ça. Donc je vais passer un peu les gros points en fait en revue hein, par rapport aux commentaires. Le commentaire, bah, c'est le même qui a été soumis au vote en ligne. Donc c'est les gens qui ont voté à distance et vous avez le même. C'est comme pour le rapport moral. Hein, on fait deux versions, une papier, une web. Donc globalement, le bilan de l'April, il est assez facile à lire parce que le bilan sert un peu à dire quelles sont les ressources qu'on a maintenant, enfin à l'issue de l'exercice en tout cas, en caisse. Et donc on a commencé l'année. Alors il y a deux colonnes, le passif et l'actif. Moi je suis pas comptable, je fais de la compta bénévole. Ce que je comprends de ça, c'est que le passif donne à peu près l'origine des fonds. Donc l'origine des fonds, c'est essentiellement les fonds que nous avions en réserve et le résultat de l'exercice sur l'année. Ça donne un total de 38 079,38 €. Et l'actif, ça tend à déclarer l'origine qui est faite, enfin pas l'origine, mais l'utilisation qui est faite des fonds. Donc nous, pour l'essentiel, en fait, on met de l'argent dans notre compte en banque, qu'on dépense quand c'est utile. Et on a également, il y a le compte 4, compte 2 tiers, qui contient des créances et des dettes. Donc là, qui a un solde positif de 2 500 €. Donc tous les sous qui proviennent du passif sont employés à l'actif. Et c'est pour ça que la balance, elle est équivalente dans les deux cas. Donc nous, c'est assez simple à l'April parce qu'en fait, on stocke pas de marchandises ou très peu, donc on les compte pas. On ne fait pas de gros investissements d'équipement. On n'achète pas des gros mainframes à 400 000 € qui vont durer 10 ans, etc. Donc tout ça, on n'a pas besoin de les comptabiliser. C'est pour ça que le bilan est très simple. C'est pour ça qu'il y a de nombreux zéros dans plein de comptes qu'on détaille pas. Après, ce qui est plus intéressant en termes de contrôle de la vie associative, on va dire, c'est ce qu'il y a au dos de la feuille, donc c'est le compte de résultats. Le compte des résultats, ça prend l'ensemble des produits et des charges, on va dire des recettes et des dépenses de l'association, et on les catégorise par nature. Nous, on suit le plan comptable qui est fourni par l'administration. Et donc la façon dont on catégorise les dépenses, c'est pas nous qui la choisissons. Et c'est pas non plus relié forcément à des projets. Tout ça est très mélangé. Ce qu'on peut voir, on peut toujours voir la compta par deux facettes. Soit on catégorise toutes les dépenses par nature. Donc par exemple, est-ce que j'ai dépensé pour du transport? Est-ce que j'ai dépensé pour de la nourriture, etc.? Est-ce que j'ai dépensé pour une location immobilière ou des choses comme ça? Ou soit on peut voir la répartition des dépenses par projet, on va dire. Donc par exemple, si j'ai fait du transport, ok, ce qui m'intéresse, c'est par exemple combien de transports j'ai dépensé, par exemple, sur la lutte contre les brevets logiciels pour aller à Bruxelles, par exemple. Ça peut être des questions pertinentes, mais en fait, on s'en occupe assez peu à l'April. J'avais prévu de faire ça cette année et j'ai cruellement manqué de temps. Donc là, on reste sur les présentations classiques de comptes de résultats, en fait, avec une catégorisation donc par nature. On peut voir les différentiels par rapport à 2011. Globalement, sur les produits, c'est plutôt conforme à ce qu'on avait prévu en prévisionnel. Donc on a des revenus par vente de marchandises, etc. Les ventes de marchandises ont beaucoup baissé en fait en 2012. En 2011, on avait mis beaucoup de produits via la boutique en vente libre, notamment des catalogues libres, des dépliants, etc. Et depuis, c'est un petit peu ça s'est bien vendu et on a pas trouvé. Enfin, moi, c'était un peu moi qui gérais ça. J'ai pas trouvé le temps disponible pour remettre à jour les comptes. Donc, faut qu'on fasse ça à l'occasion. Il y avait aussi un gros volume de vente de marchandises en 2011 qui était dû à quoi? Ah non, c'était dû au catalogue libre en fait. Donc ouais, ça rentrait là-dedans. Subvention d'exploitation. Donc le compte 74. En 2011, on avait une subvention de 6 000 € de la part du crédit coopératif pour distribuer une clé USB. Ça n'a pas été reconduit en 2012. C'était pas prévu que ce soit reconduit. Donc du coup, on n'a pas de subvention cette année. En fait, c'est un peu notre mode de fonctionnement normal. Les subventions qu'on avait eues en 2011 et 2010 étaient assez exceptionnelles, en fait. On essaiera d'en refaire à l'avenir, mais C'est pas ce qui nous donne des revenus en général, parce que comme ce sont des subventions sur des projets, en général, les dépenses sont affectées directement. Ensuite, on a des revenus de collecte qui ont augmenté. C'est dû notamment au fait qu'on a travaillé, vous avez peut-être entendu Pack Liberté. C'est une campagne qu'on avait avec la Quadrature du Net et Framasoft. Et comme on a fait des dépenses dans ce cadre et que c'est nous qui avons avancé les dépenses, on a demandé aux autres de nous rembourser pour prendre leur part, et ça va notamment dans ce compte de collecte. Dans le compte de collecte, on a aussi éventuellement des participations aux frais. Quand on organise des repas, typiquement le repas d'AG ou des choses comme ça, et qu'on demande aux gens une participation, ça va dans ce compte-là. On a le gros morceau du compte 75, hein, c'est les cotisations. Donc cotisations personnes physiques, qui sont environ 2400 euros inférieurs par rapport à 2011. Donc ça, c'est une légère décroissance, ça fait à peu près 2 et quelques pourcents, je crois. Et ça, c'est l'érosion normale, on va dire, qu'on voit depuis plusieurs années. Hein. C'est de l'ordre de 2% sur les cotisations personnes physiques. Du coup, par rapport à la question tout à l'heure de savoir est-ce qu'on avait résilié beaucoup de membres ou quoi, il se trouve que les paiements l'érosion des cotisations, elle est à peu près constante depuis 2009. Par contre, ce qui n'est pas forcément constant, c'est notre rigueur dans le fait qu'on choisisse de résilier tous les gens qui sont pas à jour ou pas. Là, cette année, on était un peu plus rigoureux que les années passées, parce que les années passées, comme c'était des gens qu'on ne contactait pas depuis, dont on n'avait plus de contact depuis peu de temps, on se disait peut-être qu'ils vont réadhérer. Puis en fait, bon, là, certains ont confirmé qu'ils donneraient pas de signe de vie, bon, on a résilié. Il y aura d'autres vagues d'adhésion de résiliation en 2013. Il y aura aussi, j'espère, d'autres vagues d'adhésion. Cotisation personne morale, ça c'est les cotisations entreprises, associations. Bon, pour beaucoup c'est des cotisations entreprises parce qu'elles financent un peu plus que les associations en général. C'est en hausse, donc ça c'est plutôt bien. On a eu des cotisations entreprises qui étaient entre 2010 et 2011 parfois difficiles parce que là il y avait la crise. Plein d'entreprises nous disaient à l'époque qu'elles avaient des problèmes de liquidité, qu'elles n'étaient pas prêtes à donner 1000 ou 2000 euros à l'April. Donc voilà. On sent que ça se passe mieux maintenant, quoi. D'ailleurs, en 2013, les cotisations personnes morales sont revues encore à la hausse par rapport aux chiffres. Enfin, en tout cas, au prévisionnel, moi, je les vois encore à la hausse. On voit très nettement qu'il y a des entreprises qui n'ont pas cotisé en 2012, qui cotiseront en 2013, et donc c'est plutôt sympa. Dans les autres produits de la générosité, qui a beaucoup évolué par rapport à 2011, donc les autres produits de la générosité, c'est les dons. On avait à l'époque un volume de 2000 euros de dons, qui est à peu près constant de chaque année. En 2012, il a fortement augmenté pour deux raisons. La première, c'est la collecte Pack Liberté. Le premier opus de Pack Liberté nous a rapporté à peu près 15 000 euros. Et donc ça, ce sont des dons spontanés, ce ne sont pas des adhésions, donc ça rentre dans ce compte-là. Et la deuxième, c'était on avait appris suite à la dissolution de la Fondation Mozilla Europe, parce que les personnes de Mozilla Europe ont rejoint la maison mère Mozilla Foundation américaine. Suite à la dissolution de Mozilla Europe, il y avait un reliquat de budget qui avait été donné à différents assos du monde logiciel libre, notamment l'April, et donc on a vu un joli chèque de 20 000 euros, c'était très sympathique. Et ça va donc dans le compte 75-88. Les autres produits financiers, le compte 76-80, c'est les intérêts bancaires. Donc on a un livret bleu on se rémunère dessus à hauteur donc de 953 euros pour cette année. Les produits exceptionnels, généralement des trucs inclassables, par exemple des erreurs de gestion, des gens qui nous ont donné de l'argent puis auxquels faut qu'on le rende ensuite parce que par exemple ils se sont trompés de compte le jour où ils ont fait le virement, des choses comme ça. On a eu également dans ce compte-là cette année 2000 euros de dénommagement, je sais pas comment on appelle ça, mais suite à l'affaire April Angie, donc qui nous a coûté un peu d'argent. La personne donc côté Angie était condamnée à payer 2000 euros aux dépens pour payer en partie nos frais de justice. Et il y a aussi donc dans le compte 78-94, c'est la reprise de subventions. Donc on avait reçu en 2010 une subvention du Crédit Coopératif de 10 000 euros et c'est en utilisant ces comptes-là qu'on les décaisse, quoi. Ça, c'est pas de l'argent qui a transité, hein, c'est juste des écritures comptables. Donc, ça veut dire qu'en gros, en 2011, on a dépensé 2198 euros sur cet argent qui était disponible dans un fonds dédié. Et en 2012, on a fini de consommer cette subvention en retirant les 7801 euros restants du fonds dédié. Ça, c'est donc le tour des produits pour 2012. Je viendrai après sur le bénévolat. Ensuite, il y a la question des dépenses. Alors, les dépenses sont à l'april relativement faciles à prévoir d'année en année. Souvent, c'est très stable. Je vais mettre l'accent juste sur les variations qui peuvent nécessiter une interrogation. Donc les achats d'études et de prestations. J'avais parlé tout à l'heure d'un projet de clé USB qu'on a fait avec financé par le crédit coopératif. En réalité, ce projet-là, on l'a fait en collaboration avec Framasoft, mais Framasoft en particulier a assuré l'expertise technique. Donc c'est une prestation qu'on leur avait commandée en 2011, qui était d'un montant de 6 000 euros. Et en 2012, on est revenu à un montant normal qui est qu'on commande peu de prestations, là c'est zéro. L'achat de matériel, c'est tout ce qui est de l'équipement, que ça peut être des chaises de bureautique, des ordinateurs, etc. Là on a une légère hausse. En fait, on a renouvelé un peu de matériel au bureau et c'est pour ça. L'achat de marchandises, il est assez constant par rapport à 2011, mais par contre, il a beaucoup changé en nature. Parce que j'avais dit qu'en 2011, on avait acheté beaucoup de marchandises, notamment pour les vendre via la boutique en vente libre. Et en 2012, ce poste-là correspond à des guides libre association qu'on a diffusés gratuitement. Donc au lieu de les vendre, on les a donnés. Du coup, ça apparaît dans les achats, mais ça apparaît pas dans les ventes. Mais en fait, c'est des achats qui sont subventionnés donc par la reprise de subvention. Donc c'est relativement équilibré par la reprise de subvention. C'est un projet qui globalement coûte pas à l'April. En tout cas, l'impression et l'expédition des guides ne coûte pas. Après, il y a quand même des tâches de gestion, etc., qui coûtent humainement. Sur les services extérieurs, tout ça est relativement constant. Donc sur les honoraires, ça correspond pour l'essentiel au paiement des frais d'avocat pour l'affaire après Longy. Le compte 6230 publicité correspond pour l'essentiel à tout ce qui est imprimé. Donc là, il a pas mal augmenté. Les années passées, il était relativement constant autour de 3 000, 3 500 euros. Cette année, il a augmenté pour une raison essentiellement, c'est qu'il y a eu plein de manifs ACTA au premier et second trimestre 2012, qui n'était pas organisé par l'April. Nous, on s'est retrouvés là un peu, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était des annonces à la va-vite sur Facebook. On s'est dit quand même, on va aller soutenir les jeunes, mais pas en soutenant Facebook. Et donc, on a fait beaucoup, beaucoup d'imprimés du jour au lendemain, notamment pour dénoncer ACTA auprès du grand public et pour parler du logiciel libre. Et comme ça, c'était des impressions qui n'étaient pas trop prévues à l'avance, on a été voir des imprimeurs parisiens de centre-ville qui nous ont facturé ça au prix fort, ce qui explique en grande partie la variation du montant. Les transports de biens ont pas mal augmenté, ça correspond essentiellement d'une part à l'expédition des guides libre asso et d'autre part à l'expédition des petits chatons du PAC Liberté 2, si vous savez de quoi je parle. Les voyages et déplacements ont légèrement augmenté du fait d'une intensification des relations internationales qu'on a envie de faire et qu'on a envie de poursuivre à l'avenir. On aura l'occasion d'en parler peut-être. Voilà. Les réceptions ont un peu augmenté, mais rien de significatif. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Je lis le document en même temps que vous, en fait. Ouais, parce que, bon... Je lis pas le commentaire. Du coup, j'espère que je dis la même chose que dans le commentaire. De mémoire, ça doit être quand même ça un peu. Les charges de personnel sont relativement constantes. Bon, nous, on suit une inflation salariale qui est assez modeste parce que on est une association. Généralement, moi, je prévois à peu près 2% par an d'augmentation. Donc, c'est vraiment, on suit l'inflation. Puis après, bon, selon les situations, ça peut varier. Notamment, ça peut varier parce que dans le passé, on a eu des changements de permanents qui ont nécessité des recouvrements de postes pour permettre les transferts des dossiers. On peut avoir aussi là-dedans des stagiaires, donc ça peut faire des variations. Hein. Là, par exemple, les 4 830 euros d'indemnité, c'est essentiellement des indemnités de stage dans le compte 64-14. Donc ça, c'est des choses qui peuvent varier un peu, mais bon, là, on est constant. Cotisation dans le compte 65-86, c'est notre adhésion à Wikimedia. C'est la seule adhésion qu'on a, à ma connaissance. Ensuite, autre charge financière, les frais de fonctionnement du compte en banque. En fait, on a à la fois d'abonnement pour le fonctionnement du compte en banque, et on a aussi, comme on fait énormément à l'April de micro-paiements, on a des frais de commission qui sont pas négligeables, quoi. Il y a beaucoup de gens qui nous font des petits paiements de 1 euro, 2 euros par carte bleue ou par prélèvement. Bon, nous, on est toujours preneurs, hein, mais ça induit quelques coûts et donc ça va là. Ensuite, les charges exceptionnelles. Bon, en général, c'est les trucs exceptionnels. On a des créances devenues irrécouvrables qui ont pas mal augmenté. Faut qu'on fasse attention à ça. Ça, c'est un défaut de gestion de notre part. Et enfin, donc, tout en bas de la page, on a le bénévolat valorisé, enfin la valorisation comptable du bénévolat. Donc on s'aperçoit qu'à gauche et à droite, les chiffres sont les mêmes, ce qui fait que ça a une participation qui est neutre au niveau du bilan, mais ça donne une idée en fait de la valorisation financière du coût de main d'œuvre ou de coût de mise à disposition de biens par les bénévoles. Donc ça permet de mesurer un petit peu l'activité de l'asso. Moyennant plusieurs précautions d'usage, c'est que c'est sur la base de la déclaration. Donc il y a plein de gens qui font des choses pour l'asso mais qui les déclarent pas. Ou alors il y a des gens qui font beaucoup beaucoup de choses puis ils se disent comme c'est des petits trucs, je vais pas les ajouter bout à bout, je vais pas faire une somme de petites actions de 5 minutes. Donc généralement, bon, on a des gens qui déclarent des projets, ils disent j'ai passé 3 heures cette semaine à faire ci, à faire ça. On peut le faire via l'interface membre qu'on vous a présenté en début d'après-midi. La façon dont je compte jusqu'à maintenant le bénévolat valorisé, c'est ce qu'on fait depuis le début. C'est le bénévolat valorisé, on a eu du mal il y a quelques années à trouver de la documentation là-dessus. Il y avait une loi qui a été passée, un décret d'application, mais le ministère n'a jamais documenté ça. Donc on allait un petit peu à l'aveuglette. Et la décision qu'on avait prise, c'était de prendre les heures de main-d'œuvre déclarées par les bénévoles et de leur appliquer un coefficient en SMIC horaire brut. Donc soit les bénévoles peuvent déclarer eux-mêmes est-ce que leur travail vaut 1 SMIC brut, 2 SMIC brut ou 3 SMIC brut. Ça dépend du niveau d'expertise du travail, etc. Peut-être qu'à l'avenir, on fera différemment. C'est que maintenant, c'est des pratiques qui sont plus documentées. Et la façon qui semble la plus pertinente de documenter, enfin de comptabiliser ça, c'est de compter le coût de remplacement. C'est-à-dire combien ça coûterait à l'April de faire ça. Et si on devait compter le coût de remplacement, en fait, on prendrait pas le SMIC brut, mais on prendrait le SMIC chargé, quoi. Donc qui devrait significativement à l'avenir augmenter la valeur de bénévalo pour le même nombre d'heures. Tout ça donne pour l'exercice 2012, on a un exercice qui est bénéficiaire à hauteur de 5000 euros environ. Ce qui est pas mal parce que les exercices précédents étaient plutôt déficitaires. Alors moyennant quand même le fait que il y a une grosse partie des produits qui ne sont plus des ressources stables. Ça, c'est depuis un certain temps à l'April, nous n'avons plus les cotisations les cotisations, donc ce que j'appelle les ressources stables qu'on est sûr de voir renouvelées avec une bonne prédictibilité. ne suffisent plus aujourd'hui à compenser les dépenses stables, donc notamment les salariés, puis les frais minimaux de structure, c'est-à-dire le local, les petites fournitures, etc. Et donc aujourd'hui, alors sur 2012, si on compte les ressources stables moins les dépenses stables, je crois que j'indique à peu près moins 12 000 euros, quelque chose comme ça, donc c'est quand même assez conséquent. Ce qui nous incite à diversifier d'une part les sources de financement. Donc pour 2012, on a fait deux campagnes de dons. Et seules les recettes d'une campagne sont comptées là, parce qu'on n'a pas encore touché les recettes de la deuxième campagne, on va les toucher en 2013. Pour 2012, on avait aussi le don de Mozilla qui vient aider largement. Donc pour 2013, c'est des questions qui vont se poser très clairement à nous. C'est donc d'une part de continuer à diversifier les ressources de financement en faisant peut-être un peu de vente, de goodies, de t-shirts, de choses comme ça, en intensifiant un peu ces activités. D'autre part, en continuant donc des campagnes ponctuelles où les gens peuvent nous soutenir. Enfin, je ne sais pas encore quelle forme ça va prendre, mais il y aura sûrement des choses comme ça. Et puis, on discutera aussi. Enfin, je ne sais pas si ça a été discuté, j'ai un doute, de futures campagnes d'adhésion. Enfin, on parlera peut-être de 2013 après, en fait. Voilà les choses à venir. Donc, au final, voilà pour le bilan financier 2012. Et on va peut-être passer aux questions. Je suis sûr qu'il y a plein de questions. Oui. Ah oui, si tu veux aller au micro. Ouais. Ah d'accord.
Ah, oui. Oui, c'est une question bassement terre à terre. Je suis un petit peu étonnée par le montant des charges financières. Vous avez discuté avec la banque pour payer le moins cher possible en frais et en autres taxes bancaires habituelles ou pas ?
Non. En fait, ce montant-là, il est relativement constant depuis des années. Il dépend beaucoup du nombre de transactions qu'il y a. Effectivement, c'est peut-être. Enfin, j'ai eu plusieurs remarques comme quoi il était un peu élevé. Donc, j'ai prévu. Le rendez-vous n'est pas pris, mais je dois prendre rendez-vous avec une banque concurrente qui doit me faire une offre. Et quand j'aurai l'offre de la banque concurrente, on pourra discuter.
C'est bien. J'ai effectivement l'expérience avec une association et il fallait passer son temps à aller râler. Il faut bien surveiller les... Oui, j'ai passé deux fois par an, j'avais rendez-vous pour dire non, 100 euros, non...
Voilà. Ouais, nous, et en fait, il faut voir qu'on fait beaucoup, beaucoup de micro-paiements. Donc, même si on peut enregistrer quelque chose comme 6 000 transactions chaque année, si la banque fait quelques centimes de commission sur chaque transaction, ça suffit à faire des chiffres assez astronomiques. Mais effectivement, la question se pose. Donc, nous, actuellement, on est au Crédit Mutuel. Jusqu'à maintenant, on avait un conseiller sympa. Ça a changé il n'y a pas longtemps. Enfin, c'est pas qu'il n'est pas sympa, c'est qu'on ne le connaît pas. Moi, je ne l'ai jamais rencontré, le nouveau conseiller. Je pense qu'il faudra aller discuter avec lui. Il y a peut-être moyen de marchander un peu. Et comme aussi, on a eu deux occasions de subventions, à la fois du Crédit Coop et de la Fondation Crédit Coop. Moi, j'étais sollicité clairement du côté Crédit Coop, en fait, pour savoir si on pouvait être intéressé. Donc, je compte aller les voir, discuter, on verra ce qui en sort. Je ne sais pas si on changera de banque, parce que c'est quand même une grosse entreprise pour nous, mais essayer de négocier serait pas mal. Ouais. Ouais. Juste un truc avant que tu me le mets à la coupe. Non, je voulais pas dire ça. Bon, pardon. Quand même, y a plein de gens qui nous réclament régulièrement du don par PayPal, par exemple, et PayPal nous coûterait 7 fois plus cher. Donc, si à la place du Crédit Mutuel, on utilisait PayPal comme interface de paiement, ce serait 15 000 euros de frais bancaires qu'on aurait.
Fixons les idées avec des chiffres. La cotisation moyenne à l'April est de 30 euros. Lors d'un paiement par carte bleue, la banque nous retient 27 centimes, de frais sur 30 euros. Quand... Oui.
Non, mais en fait, mais, par exemple...
Mais en fait, 27 centimes. Donc, 6 000 transactions. Tu regardes, rien que là, ça fait déjà 1 500 euros.
Par exemple, on a des prélevés automatiques. Le prélèvement, je crois que c'est 20 centimes, la commission sur chaque prélèvement. Oui, attends, je t'explique. On a 20 centimes de commission par prélèvement, mais il y a des gens qui se font prélever, par exemple, tous les mois, 2 euros par mois. Parce que ils échelonnent comme ça. Ouais, disons, moi je préfère qu'ils donnent 2 euros par mois que 0, mais après, oui, peut-être qu'on peut faire un peu de communication.
Excuse-moi, vu le volume qu'on fait, à force, on ne peut pas négocier sur le volume.
On négociera jamais avec une banque sur le volume qu'on fait. Il y a des négociateurs comme Carrefour qui ont d'autres poids que nous. Quoi. Non, et éventuellement, peut-être qu'on a des on peut changer de gamme de services, éventuellement. Mais ça, c'est pas évident. Mais selon les services qu'on prend, il y a des fois où on paye plus en fixe et moins en commission, des choses comme ça. On peut éventuellement évoluer là-dessus.
Après, si je peux exprimer un avis personnel, on a tous tendance à regarder combien coûtent les choses, mais il faut regarder aussi le service. L'assurance que j'ai n'est pas la meilleure du marché. Mais j'ai eu besoin plusieurs fois d'elle et chaque fois, j'ai pu compter sur elle. Et ça, j'en suis très content. Et du coup, même si ce n'est pas la meilleure du marché, je la garde. Au niveau du Crédit Mutuel, alors j'ai aucune action au Crédit Mutuel, mais globalement, de ce que je vois, ils ont des services pour les associations qui sont pas mal. Et comme l'a souligné François, bon, on va voir ce qu'est le nouveau, enfin, comment se positionne le nouveau conseiller. Le conseiller que nous avions jusqu'à présent était très arrangeant et nous avons toujours pu compter sur lui. Et donc, avant de changer pour, en ne considérant que les frais, il faut voir un petit peu ce qu'on perd et ce qu'on gagne.
Bon, en fait, on a une adhérence. À notre SI par rapport au service de la banque. Et donc, le jour où on change, ça serait beaucoup de développement, de travail humain et tout pour changer tout ça. Donc, c'est vrai que, bon, moi, je suis pour aller discuter, si ça prend pas trop de temps, aller discuter avec eux, voir ce qu'on peut faire. Mais c'est peu probable, par exemple, qu'on change de banque si c'est pour gagner 200 euros. Si ça doit nous coûter 5000 euros de temps bénévole. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, pas d'autres questions. J'avais deux questions en ligne, moi, que je vais devoir retrouver. Alors, il y avait une personne qui faisait remarquer, parce que qu'on approuve les comptes d'un exercice et qu'on vote le quitus au trésorier et qu'il faut faire deux votes distincts. Alors, à titre personnel, je ne sais pas, parce que j'ai pris connaissance de la réponse, de la question il n'y a pas longtemps, donc je ne sais pas. Ma réponse spontanée serait de dire les statuts déclarent qu'on convoque une assemblée générale ordinaire, que l'assemblée générale ordinaire, notamment, met au vote les comptes de l'exercice précédent et qu'il n'y a qu'un vote quoi, dans cette perspective. Et je ne suis pas sûr qu'on ait d'autres obligations que celles statutaires. Si des gens ont des précisions, je suis preneur. Ouais, peut-être tu peux, Laurent, toi qui es expert, conseiller bénévole.
Disons qu'effectivement, il faut se référer au statut. S'il n'y a pas besoin de voter un quitus pour le trésorier, finalement, ce sera au sein du bureau que le trésorier sera reconduit ou pas. Donc, quelque part, c'est là qu'on validera son travail ou pas. Je profite que j'ai le micro pour exprimer le fait que les comptes sont très clairs et que ça s'est beaucoup amélioré d'année en année. Je trouve ça très bien. Moi, je trouve que c'est une démarche aussi qui évolue dans le temps. Donc, ça c'est plutôt une chose positive. Enfin, c'est assez à noter. Et puis dernière chose, sur la question de la banque, au-delà même des services des banques, c'est effectivement majoritairement un contact avec le conseiller financier. Ça peut très bien se passer un temps avec un bon conseiller financier, et puis effectivement, le conseiller change, et ça change toute la donne vis-à-vis de la banque. Quoi. Donc effectivement, il faut évaluer ce que ça peut représenter comme charge de travail que de changer de banque. Quoi. Voilà.
Donc il y a une personne, ça c'est pas trop de la trésorerie, mais il y a une personne qui faisait remarquer que pour le maintien de l'indépendance financière de l'April, il serait opportun de lancer une campagne d'adhésion forte, visant à un public large, axé sur une communication vulgarisée, accessible au plus grand nombre. Moi je suis pour, à titre personnel. On discutera de 2013 peut-être après, mais faut pas hésiter si vous avez des idées pour ça à nous rejoindre, parce que c'est à peu près sûr qu'en 2013 ce genre de choses aura lieu. Il y a une personne qui me faisait remarquer que dans mon commentaire il y avait sûrement une erreur d'une année. Enfin, dans un paragraphe j'ai dû dire 2013 au lieu de 2012. Alors je réponds pour les gens qui ont, pour les nombreuses personnes qui ont posé la question, je réponds oui, j'ai dû me tromper. Et elle a une question qui est plus gênante pour moi. Le bilan au 31 décembre aurait dû faire apparaître au passif les dettes sociales et fiscales relatives aux rémunérations du dernier trimestre. Oui, c'est juste. En fait, faut que je prenne les mesures pour faire ça. Je me suis aperçu que je l'avais pas fait. En fait, je me suis aperçu que je l'avais pas fait l'an dernier. Cette année, j'ai recopié le modèle de l'an dernier. Du coup, j'ai procédé de la même façon. Et j'ai pas fait attention à ça. Donc il faudra que je corrige l'an prochain. En réalité, là, ça veut dire que dans mon bilan, les fonds propres de l'April sont un peu exagérés. Ils doivent être diminués de quelques dettes, quoi. Ah oui, par contre, oui, au niveau de l'exercice, c'est correct, je le certifie, ouais. Par contre, ouais, mais en 2009, j'ai fait 5 trimestres un coup, et donc, enfin, bon, c'est compliqué. Il faut, ça fait partie des trucs. Non, en 2009, c'était normal, parce que c'était un rattrapage d'une erreur précédente, donc on avait fait ça. Depuis, on a toujours fait 4, mais faut que j'étudie la chose. Là, ça touche à des détails comptables que je maîtrise pas vraiment. Et j'avais promis l'an dernier que d'ici fin 2013, on ferait de la compta en partie double bien. Je vais m'y employer. Ouais, fin 2013. Je vais m'y employer quand même un jour. Alors, toujours le même, Grisby. Et non, c'est pas un logiciel. Donc, il y a beaucoup d'opérations manuelles pour sortir les bilans, ce qui rend la tâche un peu pénible. Parce que Grisby c'est un logiciel tout à fait sympathique, mais il fait pas de bilan, quoi. Grisby est très bien pour faire les comptes de résultats. C'est pour ça que vous avez un super compte de résultats bien détaillé et un bilan très mauvais, parce que le bilan avec Grisby ça le fait pas trop, quoi. J'ai fait le tour des questions en ligne sur le réseau. Voilà.
Attends, je vais taper sur le truc.
Vas-y. Voilà. Alors, on va passer au vote du bilan financier, si vous voulez bien. Donc, c'est le même jeu que tout à l'heure, hein. Donc, vous avez les petites, vos petites fiches. Alors, on va commencer par les gens qui s'abstiennent, donc qui votent avec la fiche bleue. Qui s'abstient sur le bilan financier ? Personne, donc zéro. Qui vote contre le bilan financier ? Donc c'est la fiche rose. Qui vote contre ? Personne ? Pas même un ? Tant pis, zéro. Oui, il y a quelques votes non en ligne, hein, quand même. Bah oui. Alors, qui vote pour ? Donc la fiche verte. Donc c'est les autres. Alors moi, comme d'habitude, j'ai l'éventail. Hein. Donc, merci, vous pouvez poser les bulletins. Merci bien. Alors, si vous bien me donner les chiffres. Donc... Alors, on a toujours 2581 personnes qui s'expriment. On a toujours un quorum qui sont à jour, donc qui ont le droit de voter. Donc, un quorum à 775. Et on a donc 1001 personnes qui votent oui. J'aurais dû commencer par l'inverse. Abstention 59, non 2 et oui 1001. Donc, le bilan financier est adopté. Merci. Oui. On peut remercier le trésorier, mais ça, déjà, qu'il fasse du bon boulot ou pas, déjà, on peut le remercier parce que... Merci. Je vais vous raconter une petite histoire, ça reste entre nous. Hein. Ça sortira pas d'Internet. Il y a quelques années, donc, j'étais membre du conseil d'administration de l'April. Et la personne qui s'occupait de la trésorerie a décidé de quitter son poste. Et on m'a dit, tiens, toi, Lionel, ça t'intéresserait pas de faire trésorier? Et là, j'ai levé les bras en l'air, j'ai fait, ah! Parce que je suis nul avec la trésorerie, les chiffres et tout ça. Et donc, j'ai dit, non, je préfère encore le poste de secrétaire. Et donc, ils m'ont donné le poste de secrétaire. Voilà. Et après, je suis devenu président. Mais donc, voilà, le poste de trésorier, c'est le truc dont je ne voulais absolument pas. Donc, voilà, je suis très content que François ait accepté de s'en occuper. Merci à lui. Alors, on va passer à la troisième et dernière partie de l'AG au niveau formel. Donc, c'est l'élection du CA, donc le conseil d'administration. Alors, vous avez peut-être vu, si vous suivez un peu l'association, que nous avons plusieurs personnes qui sont... qui ont décidé de partir du CA cette année. Donc là, vous avez les candidats qui et personne qui s'est proposé pour rentrer au CA. On a fait en fin d'année une demande pour savoir s'il y avait des gens intéressés et personne ne s'est présenté. Donc du coup, on va se retrouver avec un CA réduit. C'est-à-dire on va avoir moins de membres du CA. Alors les membres qui restent donc sont là. La plupart sont dans cette salle. Hein. Donc, la seule personne qui n'est pas là, si je ne fais pas d'erreur, c'est Jérémy Zimmermann, mais tout le monde le connaît. Ah, Jonathan, il est reparti ? Ah oui, pardon, Jonathan est reparti. Donc, Jonathan Leloup, c'est lui.
Là.
Et alors, les autres membres du CA, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, que les gens vous voient. Donc, il y a Luc Fievet... Benjamin Drieu, Tanguy Morlier, Rémi Boulle, voilà, Jean-Christophe Becquet, François Poulain, Magali Ganero, qui j'oublie ? Et moi, Lionel Alorge. Voilà. Je savais bien que j'oubliais quelqu'un. Alors, donc ça, c'est les gens pour qui vous allez voter. C'est un vote par liste, je vais le redire, parce que des fois, les gens nous posent la question... Il y a beaucoup d'associations où on vote pour des candidats spécifiques. C'est-à-dire, vous avez un certain nombre de gens qui se présentent de manière individuelle et vous votez pour telle ou telle personne. L'April, on a toujours choisi de faire des votes par liste pour deux raisons. La première raison, c'est une raison de permettre un bon travail du conseil d'administration. C'est-à-dire que pour que les gens viennent au conseil d'administration... il faut qu'ils aient constitué une liste de gens qu'ils connaissent déjà et qui sont prêts à travailler ensemble. C'est pour éviter le phénomène qui se passe des fois dans certaines associations où vous avez des gens qui sont élus donc séparément, qui ne se connaissaient pas forcément avant et qui, au moment de travailler ensemble, s'aperçoivent qu'ils sont incompatibles. Et du coup, vous avez des espèces de guéguerres qui peuvent se faire. Voilà, on a malheureusement connu ça, certains d'entre nous. Donc ça, déjà, ça permet de s'assurer que les gens qui sont élus ont la volonté de travailler ensemble. Et le deuxième élément, c'est que ça permet d'éviter certaines formes de ce qu'on peut appeler l'entrisme, c'est-à-dire de quelqu'un qui voudrait essayer de rentrer pour prendre le pouvoir dans l'association, enfin ce genre de choses. Voilà, ça permet de s'assurer que les gens qui vont arriver au CA sont des gens qu'on connaît déjà, qui sont déjà actifs dans l'association et dont on a déjà pu mesurer d'une certaine manière l'engagement auprès de l'association. Alors, il y a donc des membres qui partent. Alors, je vais en profiter pour les remercier. Donc, vous avez Xavier Antoviac, David Chemouille, Pierre Croc, Sébastien Dino, que vous avez entendu, et Anaïg, j'ai oublié son nom de famille. Denis, comment j'ai fait pour oublier ton nom de famille ? Alors, si vous voulez bien vous lever, il n'y en a que deux qui sont présents ici. Là. Donc, trois, qui ? Ah bah oui, c'est vrai, je t'ai vu dans le couloir tout à l'heure, merci. Donc Xavier Antoviac, Sébastien Dino et Anaïque Denis. Donc merci à eux. Donc Sébastien, comme il vous l'a dit, est là depuis très longtemps. Bon, Xavier et Anaïg un peu moins, mais voilà. Donc ce sont des gens qui ont souhaité se consacrer à d'autres activités. Vous avez évidemment le droit de nous poser des questions sur cette liste du conseil d'administration. Est-ce que vous avez des questions à nous poser? Tu as... Non. Ah, tu as des questions en ligne, oui. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, vas-y.
Est-ce qu'il y avait une volonté particulière à la réduction importante du nombre de membres du conseil d'administration?
Alors, c'est ce que tu appelles une volonté. C'est-à-dire, est-ce qu'on leur a demandé de partir explicitement avec un couteau dans le dos en leur disant « toi, tu dégages ».
Pas forcément, mais par exemple, il y aurait eu l'opportunité, constatant qu'il y avait beaucoup de départs et pas d'arrivées, de relancer des appels ou de contacter des gens en privé, de manière à pouvoir réétoffer les effectifs par rapport au départ.
Tout à fait. Alors, c'est une question qu'on s'est posée, c'est-à-dire que c'est vrai que plus il y a de membres dans un conseil d'administration, plus ça peut être compliqué, parce que à l'April, on applique un principe, on essaye d'appliquer, c'est de travailler par consensus. C'est-à-dire que quand on doit prendre une décision, on essaye de faire en sorte que tout le monde soit d'accord sur cette décision. Et évidemment, inévitablement, il y a des fois où on n'est pas forcément d'accord sur les décisions à prendre. Et donc, il faut discuter un certain temps pour essayer de faire émerger une position qui soit acceptable pour tous les membres du CA. Et ça, ça peut prendre du temps. Donc, c'est vrai qu'à la limite, moins il y a de gens, plus on peut se dire que ça va fonctionner facilement. Mais d'un autre côté, on se prive aussi d'avoir des avis de gens qui peuvent être très pertinents sur telle ou telle question. Donc c'est à double tranchant. Et enfin, de ma part, ce n'est pas une volonté particulière qu'il y ait moins de membres. Hein. Par contre, c'est vrai qu'on n'a pas fait... on a fait comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on a fait un appel à participants, mais on n'a pas été très proactif, c'est-à-dire on n'a pas vraiment été tiré des gens par la manche pour leur dire « venez » ou « revenez ». Comme on aurait pu proposer à certains anciens. Mais on n'a pas vraiment été très proactif là-dessus. Alors on va voir comment ça fonctionne avec un CA plus resserré, on va dire. Mais voilà, si pour l'année prochaine, vous êtes intéressé à participer, il ne faut pas hésiter à le faire savoir, à commencer à nous contacter, etc. Parce que plus tôt on aura l'occasion de vous connaître, plus tôt on peut commencer à créer des liens et à voir si vous êtes compatible avec les autres membres du CA. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Tu m'as dit qu'il y avait des questions en ligne, c'est ça?
Il y a une question sur la parité.
Je veux bien que tu l'as.
Ouais, c'est important, je veux bien que tu la lises. C'est pas une question, mais il y avait plein de questions, j'ai pris la première. Pour la parité, il faudrait plus de femmes.
Oui, pour la parité, il faudrait plus de femmes, oui, c'est ça, moins d'hommes. Ou plus de gens intermédiaires. Enfin, c'est pas... Alors, en fait, notre problème, c'est, j'en ai parlé tout à l'heure dans le bilan moral, c'est qu'on a 7% de membres qui se déclarent femmes. Alors, je n'ai pas été vérifié, hein, mais on peut supposer que c'est à peu près réaliste. Et effectivement, on a du coup peu de femmes dans l'association. Et on a du coup peu de femmes au conseil d'administration. Ce conseil d'administration est finalement assez, relativement représentatif de l'association. Et on pourrait nous faire les mêmes remarques, comme j'ai dit tout à l'heure, sur d'autres minorités. On se retrouve avec un CA qui est essentiellement composé d'hommes blancs entre 30 et 50 ans. Enfin voilà, donc. Hein ? Et avec de la barbe ? Non, barbe, je suis minoritaire. Et cheveux longs, je suis minoritaire aussi. Donc tu vois, c'est pas si geek que ça finalement l'après. Hein. Bon, mais ça c'est une question à laquelle on est confronté. On n'a pas de réponse définitive. On est prêt à étudier tout ce qu'on peut essayer de faire pour encourager des femmes à nous rejoindre. Et elles sont les bienvenues. Mais donc n'hésitez pas à candidater, mesdames. Il y a d'autres questions, je crois.
Je te pique le micro. dans la série des vieux marronniers, il y a trop de Parisiens, en fait, dans la liste.
Oui, alors trop de Parisiens. On est combien, les Parisiens, dans le CA, là ? T'as une idée ? Alors, on a plusieurs, effectivement, personnes. Alors, on ne dit pas provinciaux, hein, il paraît que c'est mal poli. On ne dit pas parisien non plus. Oui. Bah, je ne sais pas, moi, quand je vais en province, on me dit parisien, tête de chien, parigo, tête de veau. Non, vous la connaissez, ça là ? Alors, là, ça c'est, c'est une vraie remarque, puisque là, on a deux personnes du CA qui étaient donc à Toulouse, qui nous quittent. On a Anaïque Denis, qui est à Nantes, qui nous quitte. Je sais pas. Pierre Croix, qui est à Bruxelles. Donc, effectivement, du coup, la Xavier Antoviak, qui est planétaire, c'est ça. Planétaire, puisqu'il est nomade. Voilà. Mais donc, c'est vrai que, du coup, ça va réduire un petit peu cette année la diversité, on va dire, géographique du CA de l'April. Là encore, c'est vraiment pas un choix. Mais ça peut s'expliquer par le fait que, effectivement, nos trois salariés donc, sont à Paris. Et le fait qu'on fait beaucoup de nos réunions à Paris. Historiquement, ça s'explique notamment parce que la France est un vieux pays jacobin où tout est centralisé à Paris. Et en fait, quand on a discuté de la possibilité de faire des réunions du CA, par exemple, ou même des AG dans d'autres endroits, et ça serait avec plaisir, mais du coup, ça impliquerait aussi une explosion des prix que ça coûte à l'association, puisque à ce moment-là, il faudrait faire bouger plus de gens vers une certaine région, et ça veut dire rembourser plus de frais de transport. Donc on est prêt à le faire, on en a discuté, à un endroit précis qui s'appelle Digne-les-Bains. Ceux qui ont vu France 3 et des Racines et des Ailes cette semaine l'ont vu, c'est un endroit magnifique. On a un membre du CA qui y vit. Donc voilà, on l'a sérieusement évoqué. Mais pour l'instant, on n'a pas encore pris de décision de le faire. Oui, oui, vas-y, je t'en prie.
Je vais me permettre un petit témoignage maintenant que je ne suis plus au CA. Oui. Moi, c'est une question qui, tous les ans, m'est vraiment m'horripile. Parce qu'il n'y a strictement... Si on mettait un micro et qu'on écoute les interventions des personnes autour d'une table du CA, il n'y a strictement aucun moyen de distinguer quelqu'un qui est parisien ou de la proche banlieue parisienne de quelqu'un qui ne l'est pas. Ça ne change en rien les positions, ça ne change en rien l'approche du logiciel libre. Donc, si on veut mettre des gens qui sont de partout en France, sur le principe de mettre des gens qui sont de partout en France, faut le dire ouvertement, faut le dire clairement, c'est une volonté de parité, mais dans ce cas-là, on peut faire la même chose avec les femmes. On peut s'amuser à prendre des femmes pour prendre des femmes, parce que dans la même veine... Pardon ? J'allais y venir en disant c'est la même chose. On a toujours eu, même parmi les permanentes, pas de différence, quoi.
Alors, je te réponds, si tu veux aller vers le micro, Loïc. Tu es ancien membre du CA et tu es de Lille. Donc, tu as oublié de le dire. Viens le dire dans le micro. Tu veux dire que vous êtes encore plus ostracisé, c'est ça ? Ah oui, point de salut, c'est ça, d'accord. Ok. Loïc.
Sur la diversité, c'est que j'y connais rien à la diversité. J'ai juste une intuition que s'il y a des gens qui ont trop de choses en commun, on perd quelque chose. Et quand tu dis on n'a pas moyen de distinguer, etc., je pense que c'est le fond du problème, c'est que ce qui se dégage de la diversité, c'est pas palpable, c'est quelque chose que précisément on n'arrive pas à toucher. Donc on se force à la diversité de façon apparemment artificielle parce qu'on cherche quelque chose qui est intangible.
Merci de cette réflexion hautement philosophique. Loïc, pour ceux qui ne le connaissent pas, Loïc Dachary donc, est membre d'honneur de l'April. Et on sait pourquoi maintenant, parce qu'il nous offre une hauteur de vue que des fois, nous n'avons pas, nous qui sommes le nez dans les dossiers. Voilà. Mais encore une fois, si certains d'entre vous dans cette salle ou qui m'entendent par Internet sont intéressés pour rejoindre le CA, faites-vous connaître le plus tôt possible. On prendra contact avec vous et on verra à pouvoir vous intégrer autant que possible. Alors, tu avais d'autres questions en ligne ?
Ouais, c'est le troisième et dernier gros marronnier. Donc, le gros marronnier, c'est ce qui revient chaque année. Je dis pas ça de façon péjorative parce que c'est bien
si,
aussi de.
Si, quand même.
Ouais. Ah si, c'est vrai que je dis. Bon, pardon. L'April gagnerait à s'ouvrir davantage à d'autres personnes au profil socio-professionnel plus représentatif d'un panel de Français. Enfin, sous-entendu, on est très geek, quoi.
Oui, alors là, on est assez geek, c'est vrai. Je vous ai pas mis dans le rapport moral, on l'avait fait l'année dernière, mais vous l'avez dans la version papier, le détail par profession. Alors, sachant qu'il y a quand même près de la moitié des gens qui, je crois, déclarent pas les professions, enfin, ça donne quand même une espèce d'aperçu. Et effectivement, c'est beaucoup de gens qui sont informaticiens, ingénieurs en informatique ou ingénieurs, beaucoup de professions d'éducation. Donc, c'est vrai qu'on voit que par profession, on concentre un certain nombre de types professionnels. Et c'est vrai qu'au niveau social, le fait d'avoir fait des études supérieures, etc., fait que y a des gens qui peut-être se sentent moins concernés par l'informatique et notamment par l'informatique libre. Mais ça, mon point de vue personnel, c'est que c'est quelque chose qui va, j'espère, avoir tendance à s'atténuer. Alors, je sais qu'on n'est pas tous d'accord quand j'en discute avec des gens, mais je pense que plus l'informatique devient banale, plus les gens ont des smartphones dans leur poche et des tablettes, etc., et bientôt des télés connectées à Internet, plus on va avoir de gens qui vont être concernés par les problèmes de l'informatique. Alors, bien sûr, ils resteront probablement une minorité. Hein. C'est-à-dire que le grand public va consommer et va pas se poser plus de questions. Mais forcément, vous avez des gens qui vont tomber sur des problèmes et qui vont se poser des questions. Et je vous parlais notamment tout à l'heure du livre numérique, les gens qui se font effacer un bouquin, pas de chance, 1984 de George Orwell, sur leur liseuse électronique. Enfin, je pense que s'ils ont un minimum d'intelligence, ils vont se poser la question. Ils vont dire pourquoi ça m'arrive ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est normal que ça arrive avec l'électronique alors que ça n'arrivait pas avec le papier ? Et donc, on peut espérer que quand même un certain nombre de gens se mobilisent, même si je pense très honnêtement que le noyau dur de l'April, ça restera des geeks. Oui, il y a deux interventions. Jeanne et Luc.
Et juste pour une précision, il y a quand même aussi un groupe de travail diversité qui justement réfléchit à ces questions-là sur comment faire pour faire en sorte d'inclure un maximum de personnes. Et donc, si vous avez des suggestions là-dessus, il ne faut pas hésiter à le rejoindre, à discuter avec eux, parce que, justement, c'est les questions qu'on se pose et sur lesquelles on réfléchit.
Luc.
Oui, donc moi, je fais partie des quotas, d'ailleurs, du CA. Alors, même si je travaille dans une société qui fait de l'informatique, non, on est deux, oui. On est deux, mais on est au moins deux au CEA à ne pas être informaticien. Et quand je dis pas informaticien, c'est que je sais pas écrire une ligne de code et Magali non plus. Alors évidemment, je m'intéresse à l'informatique, sinon je serais pas là. Mais ceci dit, je pense que ça amène à des réflexions qu'on n'a pas amenées jusqu'ici. Ma perception du logiciel libre, de l'informatique libre en général, c'est que il y a beaucoup d'innovations et d'énergie qui sont dépensées sur des trucs assez geeks, assez techniques. Et on voit dans les résultats du logiciel libre où c'est en position très forte par rapport à Internet, aux infrastructures et tout ce qui est serveur vraiment web et tout ça. Et ça l'est beaucoup moins par rapport au grand public. Et à mon sens, ça pose des vraies questions qu'aujourd'hui, on n'a fait qu'effleurer. Et donc, c'est effectivement une piste de travail qui serait intéressante.
Merci. Y avait d'autres questions, François ? Nous, on a fait le tour ?
Comme ça, si la personne nous écoute, elle aura sa réponse. Il y avait une personne qui se posait la question, est-ce qu'elle avait lu dans les statuts qu'il y avait un renouvellement du CA, et se posait la question, est-ce que ce serait pas bien de garder quand même une continuité avec le précédent ? Et je crois qu'elle a mal compris, c'était renouvellement au sens d'avoir une nouvelle liste, c'est pas forcément changer chacune des personnes. Quoi, en fait. Voilà.
Oui, là c'est vraiment une mauvaise compréhension, puisque au contraire, comme j'ai dit, on vote par liste et on a tendance à avoir des gens qui restent longtemps. Pour une raison assez simple, en fait, c'est que être membre du conseil d'administration de l'April, ça demande de passer un certain temps à lire des dossiers, à lire des documents qui sont souvent techniques, juridiques, etc. Et ça demande donc d'avoir une certaine habitude de ça. Et c'est vrai que la première année où je me suis retrouvé au CA, et encore, l'April était une association encore assez modeste, j'étais un peu submergé par le nombre de messages, de choses qu'il fallait suivre. Il fallait mémoriser plein de noms de gens, plein d'acronymes, plein de machins. Et c'est vrai que voilà, c'est pas mal de pouvoir rester au CA quelques années, ne serait-ce que parce que ça permet de suivre les dossiers et de mieux connaître un petit peu les dossiers. Alors que quand on arrive, enfin, les arrivants récents comme Malgali pourront peut-être vous en parler, mais effectivement, c'est peut-être un peu dur de se mettre dans la boucle. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions dans la salle, on va passer au vote, alors, s'il vous plaît. Donc, c'est la même chose que tout à l'heure. Vous avez trois couleurs de papier. Donc, je vais vous demander, ceux qui s'abstiennent pour l'élection de la liste, de lever votre papier bleu. Ceux qui s'abstiennent, bleu. Qui s'abstient, personne. Donc, zéro. Alors, ceux qui sont contre vont lever leur papier rose. Qui est contre ? Personne encore ? Faites un effort. Bon, donc personne. Non, c'est. Ok. Donc je compte zéro. Alors, qui est pour les papiers verts ? Voilà. Merci. Vous pouvez reposer vos bulletins. Alors, je vais vous donner les chiffres dès que Magali a fini son comptage. Donc, nous avons toujours 2581 votants potentiels. Nous avons un quorum à 775. Nous avons abstention 36. Aucune liste 6. Et liste 1, donc 1022 personnes. Donc, la liste du CA est élue. Merci. On va terminer l'AG en vous parlant un petit peu. Pardon.
Juste une blague. Il y a un truc qui montre bien qu'on n'est pas tous des geeks au sein du CA et pas Lionel. C'est que les listes sont numérotées à partir de 1.
Alors, c'est une vieille blague pour ceux qui ne la comprendraient pas. Je vais essayer de l'expliquer en 2 secondes. Les informaticiens sont des pervers qui numérotent les choses à partir de 0. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. Donc, si vous lisez les 4 libertés du logiciel libre, par exemple, la première liberté, c'est la liberté 0. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'elle compte pour 0, c'est la plus importante, mais ça veut dire qu'elle démarre à partir de 0. Qu'est-ce que je veux dire ? On va passer aux perspectives 2013. C'est pour vous présenter un petit peu là où on va, c'est-à-dire ce que l'on souhaite mettre en œuvre. Donc, c'est la continuité de ce qu'on a fait, évidemment, en 2012. Mais il y a quelques points dont je voulais vous toucher 2 mots. Donc en France, ça va être beaucoup de travail autour du législatif, c'est-à-dire aller voir les députés et les sénateurs pour essayer d'obtenir des décisions favorables au logiciel libre et à l'informatique libre en général. Alors ça, c'est un travail de fond qu'on mène maintenant depuis plusieurs années. Là, on va pouvoir s'appuyer donc sur les 46 députés dont je parlais tout à l'heure qui ont signé le pacte du logiciel libre, mais ça ne nous empêche pas aussi d'aller en voir d'autres, évidemment, parce que parfois on peut être soutenu par des députés sur une problématique spécifique, c'est-à-dire ils ne sont pas forcément d'accord avec tout le logiciel libre. Moi, par exemple, la députée de là où je vis, elle est contre les brevets logiciels, mais par contre le reste, bon, c'est pas son problème. Mais au moins, sur les brevets logiciels, je sais que je peux aller la voir pour lui demander son soutien. Voilà. Donc, ponctuellement, en fonction des dossiers, on peut aller les voir. Et puis, dialogue avec l'exécutif. Donc, il ne vous a pas échappé qu'en France, on a changé de gouvernement et de majorité. Donc, ça veut dire que, évidemment, tout le travail qui avait été fait ces 5 dernières années, il faut le reprendre pratiquement à zéro, puisqu'il faut aller voir de nouveau responsable. Alors, on essaye d'aller voir les ministres. En général, évidemment, on ne voit pas le ministre lui-même, mais on obtient des rendez-vous avec le cabinet du ministre. On essaye d'aller voir donc les responsables pour leur parler de nos dossiers, pour essayer de faire avancer un certain nombre de décisions. On vous a parlé de l'action de groupe, notamment, qu'on va poursuivre. La circulaire héros, donc on va essayer d'insister pour qu'elle soit bien appliquée dans l'ensemble des ministères. Notamment, on a parlé beaucoup de, je vous ai parlé de l'éducation nationale, mais c'est vraiment dans tous les ministères où on souhaite qu'elle soit appliquée. On va essayer de demander à ce que soit remis en cause le fameux accord open bar du ministère de la Défense. Enfin voilà. Donc c'est aller voir les responsables gouvernementaux pour pousser nos dossiers. Au niveau européen, c'est le même travail de fond qui, lui, va continuer, puisque ce sont des députés qui sont déjà en place. C'est aller voir les députés, c'est faire de la veille sur les dossiers pour vérifier ce que l'Europe nous prépare, parce que il y a, comme je le disais, on a participé à des commissions, etc. Enfin, pas des commissions, mais à des demandes d'avis. Mais le problème, c'est que derrière, les choses se décident en petits comités, dans des commissions, et on a souvent beaucoup de, enfin, on a un peu de mal à savoir ce qui se fait. Et donc, on essaye d'avoir des contacts, de prendre des contacts pour savoir un petit peu ce que préparent les groupes, ce qui se discute au niveau du Parlement européen, de manière à ne pas subir ce qu'on a subi il y a quelques années, c'est-à-dire le fait que vous aviez des directives européennes qui étaient prises, notamment le UICD, qui ensuite nous tombait dessus parce qu'elle devait s'appliquer dans tous les pays européens. Et chez nous, ça a donné la loi DADVSI, donc qui est néfaste pour le logiciel libre. Donc on essaye d'aller maintenant en amont depuis plusieurs années pour essayer de voir ce qu'on peut faire pour influer à Bruxelles. Je ne vous cache pas que notre influence est moindre, évidemment, que les lobbies. Enfin, on essaye d'être présent. Donc, on l'a évoqué, les dossiers qu'on va essayer de traiter en 2013. Alors, c'est une liste qui n'est pas définitive, mais c'est au moins ce qu'on peut voir déjà maintenant. C'est on va devoir faire une campagne de financement. Bon, François vous a expliqué qu'on avait une érosion de nos revenus. Donc ça ne remet pas en cause le fonctionnement de l'association maintenant, parce qu'on avait des marges de manœuvre, mais ça la remet en cause à terme. Donc il va falloir qu'on améliore notre financement. Et en plus, on aimerait bien embaucher un quatrième permanent. Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de tâches à la fois sur le suivi des dossiers, sur toute la partie qui est gérée actuellement par Frédéric Couchet dans son poste de délégué général, des problèmes d'organisation, etc., qui commencent à être pesants et qui commencent à le gêner dans ses autres activités. Donc on va essayer de voir si on peut, par des campagnes de financement, obtenir suffisamment d'argent pour embaucher un quatrième salarié. Alors là, ça dépend beaucoup des réussites de ces campagnes. Donc voilà, vous en entendrez parler parce qu'on vous sollicitera et on essaiera de mener des campagnes. Donc à la fois envers les particuliers, mais aussi envers les entreprises, parce qu'on a vu que cette année, ça avait plutôt bien marché, et aussi envers, on va dire, les grandes administrations. Donc on parlait des universités, on parlait des villes. Voilà, ce sont des gens qu'on va essayer d'aller solliciter pour trouver des sous. Et si, de votre côté, vous connaissez... je ne sais pas, une mairie, une région ou une entreprise qui pourrait nous soutenir. Ça peut être aussi une fondation. Voilà, n'hésitez pas à nous le signaler. On est preneur. Alors, je vous ai dit, il y aura le suivi de la circulaire Hérault. Ça, je viens d'en parler. Donc, son application. Vérifier qu'effectivement, les administrations prennent des mesures favorables au logiciel libre. On a l'Europe... où là, on a donc un certain nombre de problèmes. On a la suite des brevets qui va falloir suivre. On a les problèmes de standards ouverts. Et je ne doute pas que l'Europe nous trouvera encore plein de dossiers super intéressants pour nous occuper toute l'année, parce que régulièrement, évidemment, sortent de nouvelles idées. Et en ce moment, ce qui est très à la mode, c'est de nous parler de numérique. Et quand on nous parle de numérique, vous pouvez être sûr que dedans, il y a plein de choses néfastes pour le logiciel libre. Donc, il faut qu'on soit attentif à toutes ces problématiques-là. On a discuté depuis plusieurs années de ce qu'on appelle l'informatique déloyale. Et vraiment l'exemple d'informatique déloyale, c'est les smartphones et principalement l'iPhone, qui est vraiment une spectaculaire illustration d'informatique déloyale. Donc, l'informatique déloyale, c'est l'informatique qui joue contre les utilisateurs. C'est-à-dire, c'est l'informatique qui vous enferme dans un système où vous avez donc plus la possibilité d'installer les logiciels que vous voulez. Vous ne pouvez plus choisir que des logiciels dans une liste qui est prédéfinie par le constructeur. Vous ne pouvez absolument aller rien mettre sur votre ordinateur, sur votre smartphone, sans passer par un site marchand iTunes, pour ne pas le citer. Enfin voilà, on est vraiment dans ce que nous on appelle l'informatique déloyale, c'est-à-dire une informatique qui emprisonne ses utilisateurs. Et on a, comme je l'évoquais tout à l'heure, pour l'instant, pas d'alternative crédible de smartphone libre à proposer. Donc ça, c'est un dossier qu'on va essayer de suivre avec attention, en contact avec d'autres associations internationales, dont la FSF, pour essayer de voir comment on peut essayer de faire émerger une alternative libre, mais aussi crédible, c'est-à-dire que les gens aient envie d'acheter. Et puis, économie et logiciels libres, ça c'est un point important, parce que on a essayé de développer donc toute l'idée que les gens peuvent gagner leur vie avec du logiciel libre, que c'est pas incompatible, que le logiciel libre n'est pas fait contre les entreprises, mais peut être fait avec les entreprises. Enfin, voilà. Donc de développer les liens entre les entreprises et le logiciel libre. On a un petit budget prévisionnel. François, si tu veux nous en toucher deux mots.
Ah, attends, tiens, tu veux me tenir ça?
Ah oui, bah attends, tu veux prendre
celui-là? Oui, je vais prendre l'écran, en fait. Non, mais je voulais prendre l'écran. Sur...
Ah oui.
En espérant que ça marche.
Alors, le budget prévisionnel, bien sûr, c'est voir un petit peu comment on va pouvoir... dépenser les sous. Tu as fait. J'ai raté le geste, je suis désolé. C'est, ah oui, tu es contre le budget. Yeah, ouais, bah oui. Il nous faut. Pour acheter des friandises, c'est ça là ou...
Non.
Oui. Alors en fait, nos charmantes personnes qui sont là, c'est nos admin 6, hein, et ils nous réclament ardemment des sous pour acheter plein de serveurs qui servent à rien. On ne sait pas ce qu'ils veulent en faire, mais. Voilà. Plus sérieusement, voilà, il va. Ça serait bien qu'on investisse dans un serveur.
On voulait payer des gens même.
Ouais, ah,
et ça ne représente pas plus qu'un quart du budget.
Voilà, ok. Éventuellement, embaucher quelques admin 6, ça serait pas mal. Alors, on va donc vous montrer un peu le budget prévisionnel.
Il n'est pas en TXT. Hein.
Tu veux le micro, l'autre?
Ouais, je vais prendre ça.
Ok.
De toute façon, ça devrait être plus ou moins une concrétisation sous forme de budget de ce que tu disais. Donc, les cotisations adhérents, personnes physiques, je prévois l'érosion constante qu'on voit depuis plusieurs années. Ça, c'est à supposer qu'on ne relance pas de campagne, donc on verra en cours d'année ce qu'on fait. Mais ça, c'est si on ne fait rien, il se passera à peu près ça. Cotisations personnes morales, c'est très souvent plus difficile à prévoir correctement. Mais je m'attends à une hausse d'environ 10 000 euros. C'est dû notamment à des décalages de paiement, des gens qui n'ont pas payé en 2012, qui ont commencé à payer ou qui paieront en 2013, on espère. Il y a aussi des gens qui ont payé en 2012, qui ne paieront pas en 2013. Bon, en regardant un peu en gros les chiffres, on s'attend quand même plutôt à une surprise qui est plutôt bénéfique. Sur les ventes, comme j'en ai parlé tout à l'heure, on avait un peu cessé les ventes de marchandises, mais je vais tâcher de faire en sorte que ça reprenne. Donc, on va sûrement réaliser pas mal de ventes, notamment de catalogues libres, de ventes sur la boutique en vente libre, et sûrement de guides libre association aussi. Donc, dans l'hypothèse où ça intervient, ça va pas forcément faire des recettes pour l'asso parce que faudra aussi acheter ces marchandises. Généralement, c'est une mise à disposition qu'on fait à prix coûtant en direction de la communauté. Peut-être qu'on margera un petit peu dessus, mais globalement, ce sera pas grand-chose. On s'attend donc des petites collectes, des choses, ça c'est assez constant. On s'attend éventuellement à une subvention, c'est-à-dire si on reconduit Libre Association, je vais essayer de faire subventionner le prix des guides Libre Asso par des structures pour réussir à le mettre à disposition le moins cher possible. Donc j'essaye de miser à peu près sur 4000 euros de subvention, ce qui sera à peu près la moitié du prix de revient du truc. On a la campagne PAC Liberté 2 qui va être encaissée en 2013. Ça devrait présenter à peu près un volume de 7700 euros. Et on a quelques remboursements aussi qui interviennent. J'ai compté dans l'exercice 2012, mais les budgets, je les fais date à date. Donc, je ne les fais pas par rapport aux exercices. Parce que je n'ai pas l'outil pour ça. On voit un petit peu au niveau des ressources. Donc, sur l'année 2012, ce qu'on a réalisé, on avait un sérieux déficit entre les ressources stables et les dépenses stables.
Mais donc, on devrait réduire ce déficit en 2013. J'espère que plus tard, ce sera plus un déficit. Bon, sachant que si on poursuit à peu près au rythme de moins 16 000 euros, ce qui n'est pas souhaitable, on peut tenir 2 ans. Donc, on n'est pas non plus, l'association n'est pas en danger au niveau finance. Au niveau des dépenses, à la rigueur, c'est ce qui est un peu plus intéressant pour voir un peu ce qu'on compte faire. Donc, parmi les achats divers, il y aura un petit peu d'informatique, voilà, pour nos amis de l'admin 6. Peut-être même un peu plus que ça. Ça, c'est des vieux chiffres, je ne les ai pas mis à jour. Sur des projets, donc, j'ai l'intention de pousser une réimpression du guide Libre Association qui devrait nous coûter, si on compte impression, expédition à des structures, à peu près 9 000 euros. Ça, c'est le volume pour à peu près 10 000 guides. Donc, il y aura sûrement une partie qui sera vendue, puis une partie du reste de l'argent qui sera obtenue sous forme de subvention. Mais l'argent est à trouver pour l'instant et nous ne l'avons pas dans nos poches. Il est probable qu'on ait un stagiaire sur les dossiers institutionnels comme on a eu l'année passée, donc pour un montant d'environ 4 000 euros. Ça, c'est ce qu'on compte pour un stage de fin de cursus, bac plus 5 sur 6 mois, à peu près. J'ai parlé de catalogue libre, pareil, un montant, si on fait une réimpression du catalogue libre, une mise en boutique via en vente libre, ce sera de l'ordre de 5 000 euros. Ce serait bien que ce soit fait pour Libre en fait, donc ça c'est le genre de truc, faut le faire pour demain, quoi. Ou enfin pour hier, je veux dire. On a quoi d'autre là-dedans ? On a du personnel admin 6, voilà. Ça c'est la dépense qu'on compte faire pour un stagiaire. Et j'avais parlé aussi un peu des relations internationales, comme en 2014, on lancera sûrement une campagne auprès des eurodéputés, enfin des candidatures aux eurodéputés. On compte préparer un peu le terrain en 2013 et ça va inclure notamment des missions. On va intensifier un peu les missions au niveau européen, donc ça va se voir dans les comptes. Voilà, ça nous fait des projets en légère hausse par rapport à l'année passée. Et ensuite, on a, on va dire, les dépenses un peu récurrentes de frais de personnel. Donc, légère augmentation là aussi, ce qui correspond plus ou moins à l'inflation. Après, on verra, on n'a pas encore négocié les augmentations de salaire, mais c'est pas moi qui gère ça. On a les charges diverses, ça c'est relativement constant pour tous les postes, sauf pour les impressions, parce que je pense qu'on va revenir cette année à des niveaux d'impression un peu plus normaux. Donc en fait, les chiffres qu'on voit là, c'est plus ou moins un copier-coller en fait des choses. Donc tout ça nous ferait peut-être un résultat financier sur 2013 de 15 000 euros. Toujours une fois, c'est dans l'hypothèse où on ne fait pas d'appel à cotisation. Ce qui devrait éroder notre réserve pour passer de 35 000, ça c'est le montant qu'on a en banque au 1er janvier et qui passerait à 20 000 au 1er janvier. Donc voilà. Il est probable que tout ne se réalise pas exactement comme ça. Il y a sûrement seulement beaucoup de lignes qui se réaliseront, mais il y a des choses souvent imprévisibles. Et puis il y a la question de la campagne d'adhésion. Pour le dire en clair, là, tel que c'est prévu, on a quelques petits besoins. En fait, on a avant de se lancer dans une campagne, il faut d'abord qu'on fasse des corrections dans notre infrastructure de gestion des adhérents. Donc ça, c'est des choses qui sont en cours depuis un certain temps, et donc il faut les terminer. Ensuite, on se posera la question de préparer une campagne d'adhésion, ce qui suppose quand même en amont de préparer un peu de communication, de savoir qui on cible, comment on cible, etc. Et pour l'instant, il est trop tôt pour dire est-ce que ça va intervenir dans l'année 2013 ou en fin d'année ou quoi. C'est pour ça que je n'ai pas travaillé là-dessus au prévisionnel. On en saura plus dans les quelques mois, quoi. Voilà.
Merci. Oui, en fait, on espère bien démarrer une campagne quand même de financement au premier semestre 2013, hein, donc c'est-à-dire avant les grandes vacances. Mais avant de démarrer ça, il faut qu'on s'assure que notre système, notamment de prélèvement de cartes bleues, permet de le faire, tient la route. Enfin, il y a quelques problèmes techniques à régler. Mais voilà, on a la volonté de démarrer une campagne de financement dès que possible en 2013. Et les grandes vacances, oui, après, c'est mort. Il faut le faire avant ou alors après la rentrée. Alors, est-ce que vous avez des questions sur cette partie prévisionnelle, questions, remarques? Oui, vas-y, faut que tu ailles au micro, s'il te plaît.
Est-ce Alors, c'est pas une question, c'est aussi dans les perspectives 2013. C'est la première chose, c'est un appel pour le groupe de travail Libre Association. On voudra bien que dans le rapport moral de l'an prochain, on mette dans notre activité la sortie d'un nouveau site internet. Simplement, il y a une ressource qui nous manque, c'est un graphiste web. parce que ça, je crois que c'est une ressource un peu rare ici. Mais voilà, on a des gens qui savent écrire, on a des gens qui savent faire un site, mais on manque de gens pour faire le lien et faire que ce soit joli.
Merci. Je pense que c'est un problème général. Hein, on a souvent des sites moches, hein, mais ça. Mais demain, alors demain on a. Je vais le redire après les questions. Mais demain on a une réunion donc des membres. Pendant toute la journée pour ceux qui veulent, mais vous pouvez venir évidemment seulement pendant une partie, qui va se tenir donc à la cantine dans Paris. Je vous donnerai les informations précises après. Donc, voilà, si certains d'entre vous veulent s'impliquer là-dedans, vous êtes les bienvenus. Loïc, tu voulais dire quelque chose? Oui.
Oui, donc au nom du groupe Admin 6, merci de nous consacrer un budget afin qu'on puisse avoir une personne pour nous aider à faire les tâches qui sont les plus difficiles, les plus pénibles et que les volontaires ont du mal à faire parce qu'ils ne sont pas là tout le temps. Donc ça, c'est une bonne chose. Bon, évidemment, on aurait bien aimé avoir encore plus de ressources humaines, mais on comprend que le budget n'est pas complètement extensible. Et pour y remédier, en fait, on va faire un appel à des bénévoles, donc de façon à faire connaître le groupe Admin 6 et exprimer que on a besoin de plus de force de travail pour parvenir à nos fins. Alors, il y a un truc qui passe assez mal, et donc là, je m'adresse à en fait toutes les personnes présentes pour qu'elles relayent ce message-là. C'est que l'April a besoin d'un groupe Admin 6 qui est fort et qui produit des choses techniques, parce que l'April doit faire une informatique libre. Contrairement à plein d'autres associations qui peuvent utiliser des ressources qui se trouvent un peu partout sur le web sans se demander si c'est libre ou pas, traditionnellement, depuis sa création, l'April fabrique une informatique libre. Et ça demande une inventivité et une énergie qui justifie le fait qu'on a un groupe Admin 6 qui est un peu démesuré par rapport à la taille de l'association. Et donc là, en l'occurrence, sur tout 2013, on s'inscrit dans un mouvement qui est plutôt sexy, qui est les nuages, les DevOps, etc. Bon, ça parle pour les gens qui sont un peu techniques. Donc on espère qu'il y a des bénévoles qui vont nous rejoindre parce que c'est super sexy de faire du libre dans l'April. Donc si vous arrivez à faire passer le message à des gens qui sont Admin 6, qui voudraient bien venir nous aider, on les accueillera à bras ouverts et voilà.
Merci.
Alors ce qui est sexy, c'est qu'on est dans les nuages et en libre. L'informatique en nuage, c'est un espèce de buzzword marketing qu'on a entendu plein de fois. Mais dans l'April, ce qui est unique, c'est qu'on est en avance. On fait l'informatique de l'April aujourd'hui, elle est dans un nuage qu'on a réussi à s'approprier avec des technologies libres. Donc là, il s'agit d'OpenStack, de KVM, de ces trucs-là en mots-clés. Et donc déjà, c'est sexy d'être là-dedans parce que c'est nouveau et qu'il y a bien des admin 6 qui se disent « Tiens, je voudrais y aller, mais je n'ai pas eu l'occasion. Eh ben, viens bosser avec nous sur l'April et tu vas apprendre à manipuler du nuage en vrai avec, et en plus avec du libre. » L'autre truc qui est sexy, c'est que dans l'admin 6, on mélange les développeurs avec les admin 6 maintenant. C'est fini la séparation où on a les gens qui trimballent des machines d'un côté et puis les gens qui font du logiciel de l'autre. Maintenant, on fait les deux ensemble. Et c'est ça qu'on appelle le mouvement DevOps. Et là aussi, il y a des développeurs qui se disent « Tiens, moi, je voudrais bien être un DevOps parce que dans les nuages, on parle que de ça. » Eh bien, viens à l'admin 6, on fait des trucs à la DevOps. On fabrique de l'infrastructure comme on fabrique du logiciel. Et pareil pour les admin 6 qui se disent « Tiens, moi, je voudrais bien être un développeur un petit peu parce que maintenant, c'est fini de raquer des machines, juste brancher des fils. On peut aussi programmer son infrastructure. » Ben, viens à l'April et tu vas programmer ton infrastructure comme si tu étais un développeur. C'est génial. Voilà.
Merci Loïc pour toute cette poésie informatique. J'en profite pour remercier Loïc qui a fait une présentation audio que vous pouvez retrouver sur le site de l'April, qui explique notamment le fonctionnement d'OpenStack, c'est-à-dire de cette problématique d'informatique en nuage, mais avec des mots suffisamment simples pour être compréhensibles par les non-informaticiens, enfin j'espère. Et donc, je vous encourage à aller voir sa présentation pour ceux qui essayent de comprendre ce que c'est que l'informatique en nuage. Je vous remercie tous et toutes d'être venus aujourd'hui. Il y a Fred qui va venir me dire ce que je dois dire, parce que je dois oublier 2-3 trucs. Vous inquiétez pas, c'est normal. Tu as le papier ? Ouais, l'oreillette ne marche pas, je ne comprends pas.
Je suis perdu. Alors, avant de quitter, quelques petits points d'information et quelques réponses aussi. Alors déjà, on va quand même remercier aussi Lionel pour avoir assuré cette présentation, notamment du rapport moral et de l'AG. Ce qui est quand même...
Mais tu l'as bien fait.
On va aussi remercier Florent et Alban et Trifon pour la diffusion audio, qui est très utile. Alors j'en profite pour faire un petit coucou à certains qui suivent sur l'audio actuellement, alors notamment Bernard, Nicolas, François et un coucou spécial à Eva, l'ancienne assistante de direction qui est connectée. Alors une autre personne qui est connectée et à qui je vais dire effectivement, il n'y a pas que le membre d'honneur qui peut avoir des hauteurs de vue, c'est ma femme qui m'a fait la remarque sur IRC parce qu'elle écoute en direct. Et juste lui dire qu'elle va voir 3 geeks du CA débarquer ce soir à l'appartement. Alors pour finir, dans les instructions, à la sortie, une nouveauté de cette année, vous avez une petite boîte à idées avec des petits papiers à côté. Si vous avez des idées pour l'AG, pour l'April ou tout ce que vous voulez, vous pouvez mettre un papier dedans. Deuxième chose, à l'entrée, tout en haut, vous voyez, vous avez des stickers, flyers, libre association. N'hésitez pas à en prendre, notamment les guides, les distribuer, parce que sinon on va devoir les ramener au local. C'est lourd, on en a pris beaucoup. Pareil pour les stickers. Vous avez aussi le programme pour demain, l'adresse pour ce soir, même si on va sans doute partir en groupe pour la plupart, pour la soirée ce soir, mais vous avez aussi l'adresse pour la journée de demain. Ça, je vais l'afficher. Ouais, mais de toute façon, il y a les papiers là-haut avec l'adresse pour demain. Et au moment où vous partez, n'hésitez pas à prendre les papiers, les gobelets qui traînent pour les remettre dans la poubelle de manière à ce qu'on laisse en fait... l'amphi tout propre. Et je pense qu'étant donné qu'il est 18h, on partira vers 19h pour la soirée. Donc on a une petite heure encore de discussions diverses dehors. Okay ? Et je vous remercie.
Merci à toi. Alors là, je vous ai mis pour demain les infos pratiques. Donc la réunion des membres, qu'est-ce que ça veut dire réunion des membres ? Ça veut juste dire qu'on se regroupe, mais au lieu que ça soit que moi qui parle, je me tais et vous parlez ou vous faites des choses. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est de faire des ateliers, que chacun puisse se mettre dans un coin, travailler sur un sujet qui l'intéresse, voilà, ce genre de choses. Donc, c'est une réunion pratique de mise en route de choses que vous avez envie de faire au sein de l'April. Donc, ça se passe à la cantine, pour ceux qui connaissent. Donc, c'est 151 rue Montmartre, dans le deuxième à Paris, au métro Grand Boulevard. C'est à l'intérieur, pour ceux qui ne sont jamais venus, c'est à l'intérieur d'une galerie. Donc quand vous arrivez au numéro, il faut rentrer dans la galerie, c'est quelques dizaines de mètres à l'intérieur de la galerie. Vous pouvez pas rater, hein, y a plein de geeks et puis il y a des ordinateurs et puis voilà. Donc on vous attend demain toute la journée si vous voulez bien venir. Et puis donc voilà, je clôture cet AG. Merci à tous. Pardon. Et merci à l'EFRAE de nous avoir accueillis comme chaque année depuis plusieurs années. Donc dans un amphi sympa, chauffé avec de la lumière, enfin voilà. Voilà, du réseau. Merci à eux.